Cette conférence, intitulée « Les musiques de la mort en Occident », n'a pas pour objet de proposer une analyse musicologique de la littérature musicale historique sur les musiques de la mort. Je ne me livrerai pas ici à une analyse musicologique des messes de Requiem, nombreuses que l'on connaît, par exemple, de toutes les messes des morts, des lamentations, de la Semaine Sainte, des offices des ténèbres, etc. Encore que certaines conclusions de cette conférence peuvent contribuer à cette analyse, et que dans un article récent publié dans la revue Frontières de l'Université du Québec à Montréal en 2008, j'ai proposé un article sur l'anthropologie des musiques de la mort qui permet de dégager un certain nombre de clés analytiques pour envisager une analyse anthropologique des requiem, des messes de la mort et autres. Ici, dans cette conférence, je vais essayer d'examiner le rôle du sonore et sa présence dans les rites funéraires. Ce sera toute la première partie de ma conférence. Et ensuite, dans les imaginaires et les représentations symboliques de la mort, ce sera toute la seconde partie de la conférence. Et j'essaierai évidemment de mettre en perspective les observations que nous allons dégager dans l'une et l'autre partie de cette conférence pour essayer de déterminer des principes généraux concernant les relations du sonore et de la mort. Mais auparavant, quelques généralités sur les rites funéraires et la mort. Dans de nombreuses sociétés, les rites funéraires commence dès le moment où la mort paraît imminente. Et la plupart des ethnologues qui ont travaillé sur les rites funéraires dans les sociétés du monde, à partir du début du XXe siècle, ont été frappés par la violence de ces rites. Ils ont constaté des automutilations, pouvant parfois même entraîner la mort, des lacérations du visage et du corps, des incisions de toutes sortes, en tout cas des états paroxystiques, avec dégradation de l'aspect physique, souillures diverses. Et alors pour le domaine qui nous intéresse, celui du sonore, des cris et des lamentations, c'est absolument universel et général. Parfois aussi, le silence est imposé, notamment aux femmes, durant toute la période du deuil qui, dans certains cas, peut aller jusqu'à 2 ans. Robert Hertz a signé en 1907 l'un des textes les plus magistraux sur les rituels funéraires. Ce texte s'appelle « Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort » et il avait été publié dans cet ouvrage « Sociologie religieuse et folklore ». Ce texte est daté donc de 1907 et Robert Hertz, qui était un socio-anthropologue extrêmement prometteur, malheureusement avait été tué lors du premier conflit mondial. Lui, il avait rapporté que chez les Warramunga d'Australie, 2 ethnologues anglais avaient rencontré des femmes qui avaient si bien pris l'habitude du silence complet que même après l'expiration de la période de deuil, elles renonçaient volontairement au langage parlé. Et elles employaient de préférence un langage par geste, qu'elle maniait avec beaucoup d'habileté. Ils ont même rencontré, ces ethnologues anglais, une femme, âgée bien sûr, qui était restée sans parler pendant plus de 24 ans, suite à un deuil. Bon, on est de toute façon dans une violence qui est une violence rituelle, comme l'a constaté Émile Durkheim dans « Les formes élémentaires de la vie religieuse », et cette violence rituelle traduit non seulement de la tristesse, bien sûr, mais en fait une sorte de colère, comme un besoin de se venger. Toutes ces conduites sont ritualisées, c'est ainsi qu'il faut les interpréter. Les rites funéraires ne sont pas l'expression spontanée d'émotions individuelles. Le deuil, ce n'est pas un mouvement naturel de la sensibilité privée. C'est un devoir qui est imposé par le groupe. On se doit de respecter les rites funéraires. Cette attitude rituelle, on est obligé de l'adopter. Et dans une large mesure, elle est totalement indépendante de l'état affectif des individus. Et de toute façon, cette obligation est sanctionnée par des peines. Parfois des peines juridiques dans certaines sociétés, si l'on ne respecte pas le rite funéraire comme il se doit, mais de toute façon des peines symboliques, des peines mythiques, puisque dans certains folklores, notamment en Europe et en France, on dit qu'un mort qui n'aurait pas eu les rites funéraires auxquels il a droit reviendrait hanter en permanence les vivants sous forme de revenants, ce qui évidemment est une peine infligée pendant un certain temps à son entourage. Alors, ces rituels funéraires, cette prise en charge sociale de la mort, caractérisent évidemment surtout les sociétés traditionnelles. Dans nos sociétés contemporaines, modernes, industrielles, urbaines, la mort est devenue un interdit majeur. Le refus de subir l'émotion physique provoquée par la vue de la mort, l'importance croissante qui est accordée au corps également, le corps qui se doit d'être sain, en bonne santé, et certainement pas présenté évidemment comme le corps d'un gisant, mais aussi le déclin de certaines conceptions spirituelles, tout cela fait que la mort devient un événement que l'on cache et qui se déroule en règle générale loin de la maison. Historiquement, Philippe Ariès a étudié ces phénomènes dans ses deux ouvrages, qui sont des ouvrages très magistraux sur la question, L'homme devant la mort, dans lesquels il brosse une évolution des rites funéraires et de l'attitude de l'homme en général devant la mort à travers les âges jusqu'à notre époque contemporaine. Et l'on voit très bien cette sorte d'aseptisation des rituels funéraires modernes se dessiner depuis, on va dire, à peu près un siècle. Cela dit, le domaine de la mort est un domaine d'une très grande stabilité symbolique, véritablement transhistorique, parce que les transformations dont je suis en train de parler, en fait, ne sont pas très anciennes et dans certains cas ne se sont pas encore tout à fait produites. Je prendrai deux exemples que j'ai vécu et que j'ai observés. Le premier remonte à quelques années à peine. J'avais fait une conférence sur ce thème, les rituels de la mort, et il y avait là une jeune fille qui était d'origine italienne, du sud de l'Italie, et qui m'a dit que l'un des rituels que j'évoquais et qui avait lieu en France au XVIIe siècle, XVIIIe, et ensuite dont on n'entend plus jamais parler, ou pratiquement plus, se déroulait toujours dans son village. Ce rituel, c'est celui dont je reparlerai tout à l'heure, qui consiste à jeter des pierres sur le cercueil au moment de l'inhumation. Donc on voit bien que dans certains cas, des rituels funéraires sont restés toujours actuels dans certaines régions, notamment d'Europe méridionale. C'est très vrai en Espagne aussi, qui possède un folklore de la mort encore très marqué, notamment à travers les processions de la Semaine Sainte, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc on s'aperçoit là qu'on a vraiment affaire à des symboles qui sont totalement transhistoriques, et que dans certains cas, cette évolution, cette transformation, cette aseptisation des rituels funéraires ne s'est pas complètement opérée, pas totalement. Deuxième exemple concerne les sonneries de cloches, dont je vais longuement reparler. Elles sont évidemment historiques. L'ethnologue français Van Genep en parle encore au début du XXe siècle en France. Mais elles sont parfois toujours pratiquées, notamment dans l'arrière-pays niçois, à Saint-Martin-Vésubie, par un carillonneur qui est toujours vivant, qui a près de 85 ans aujourd'hui, et qui continue à sonner de façon différente pour un mort, selon que le mort est un notable du village ou un indigent, par exemple. Et il m'a expliqué que quand il avait affaire à quelqu'un, un notable, quelqu'un de riche, il sonnait les plus grosses cloches qui faisaient le plus grand bruit, mais par contre, quand il sonnait la mort d'un indigent, il sonnait la plus petite cloche qui faisait donc le tintement le plus discret. Et cela, Van Genep l'atteste au début du XXe siècle, mais dans les campagnes françaises, depuis plusieurs décennies, on ne fait plus du tout ça. Aujourd'hui, les carillons sont électriques. Alors, on s'aperçoit parfois que certains rituels de la mort sont toujours restés d'actualité, et évidemment, cela, c'est extrêmement intéressant. La mort est un rite de passage, je vais revenir sur cette notion. Et de tous les rites de passage, c'est sans doute le rite dont le rapport au sonore est le plus intense. On constate à l'échelle du monde et à l'échelle des sociétés des rituels funéraires qui sont extrêmement variés, c'est évident, mais pratiquement aucun de ces rituels ne connaît des moments silencieux ou retenus. Il y a toujours du bruit. Ces rituels ne sont jamais silencieux, en tout cas au moins en totalité. Et la recherche que j'ai menée concernant l'anthropologie historique de la musique en Occident et en France, notamment dans les périodes qui vont du Moyen-Âge à la fin de l'âge baroque, et même jusqu'au XIXe siècle, parce que l'ethnographie atteste encore toutes ces pratiques, eh bien cette recherche met absolument en évidence ce fait. Cela dit, les rituels funéraires ne sont pas les seuls en cause. En fait, c'est toute l'évocation même de la mort qui est associée à un sonore très intense. L'évocation symbolique, les imaginaires de la mort. Un peu comme si l'on avait redouté le vide, si l'on avait conjuré l'angoisse du néant, en remplissant l'espace sonore par un vacarme. Et peut-être ce vacarme fait-il office de lien sonore et en même temps de lien social entre les membres d'une communauté, d'une société qui est blessée par le départ d'un des membres, processus que Robert Hertz qualifie de véritable sacrilège social. Alors pour une telle étude, et malgré le titre de cette conférence, je préfère utiliser le terme de sonore à celui de musique. En effet, quand on est dans le champ du rituel ou des imaginaires collectifs de la mort, nous sommes beaucoup plus fréquemment dans celui du tumulte et du vacarme que dans celui d'une musique véritablement à portée esthétique. Même si la codification des vacarmes est une codification qui est très élaborée. On est dans ce que John Blacking appelait le son humainement organisé. Et malgré l'impression de tumulte, de vacarme, finalement ce sont des vacarmes organisés. Et ces vacarmes organisés sont codifiés. Ils correspondent à des symboles très précis, à une codification symbolique très précise. Et précisément, c'est cette grammaire symbolique que je souhaiterais mettre ici en évidence. La mort, c'est sans doute le plus important de tous les rites de passage. Rite de passage, c'est une notion aujourd'hui universellement utilisée par l'ethnologie et qui a été théorisée par Arnold van Gennep en 1909, à peine un peu plus d'un siècle. Arnold van Gennep, qui était ce grand ethnologue français du début du XXe siècle. La mort représente en effet l'ultime passage au cycle, à la fin du cycle de la vie. Et les rites funéraires ont pour finalité que le mort quitte réellement le monde des vivants et s'agrège totalement et définitivement celui des morts. Et l'efficacité du rite se vérifie. Il faut qu'elle se vérifie dans la réalité de cette séparation et de l'agrégation, et donc un rite non définitif, non totalement accompli, évidemment, aura des conséquences qui seront extrêmement néfastes pour la communauté des vivants. Tous les rites de passage, selon Arnold van Gennep, sont structurés de façon tripartite. D'abord, une phase de séparation vis-à-vis du groupe. Ensuite, une phase d'attente, ce que van Gennep appelle une phase liminale, une phase de mise en marge. C'est souvent dans cette période, dans certains rites, que l'on constate des rites d'inversion. Inversion sociale, inversion sexuelle, etc. Et puis après, naturellement, la phase de réintégration, dite aussi phase d'agrégation, tout simplement, où les gens qui pratiquent ce rite réintègrent la communauté sociale dans un fonctionnement assez quotidien, finalement. Alors, l'observation de ces trois stades n'est pas généralisée, bien sûr. Et notamment dans nos sociétés modernes, occidentales, certains de ces stades sont parfois tellement atténués qu'ils ne sont même plus observables. Un deuxième caractère essentiel de ces rites de passage, selon van Gennep, c'est qu'ils se déroulent selon une progression déterminée, selon ce qu'il appelle des séquences. Or, ces séquences, qui sont parfois aujourd'hui très atténuées au point qu'elles sont disparues, sont observables dans une perspective historique, en tout cas pour ce qui concerne les rites funéraires. Et elles peuvent même aller au-delà du rite funéraire lui-même et concerner des commémorations, voire des anniversaires, c'est-à-dire en fait se dérouler dans la grande durée. Et là, il y a des rites de commémoration, des anniversaires funéraires, etc. D'ailleurs, l'anniversaire, qui maintenant commémore la naissance, à l'origine commémorait la mort, et pas la naissance de l'individu. Alors, on retrouve dans la mort les trois subdivisions fondamentales des rites de passage, la séparation, la marge et l'agrégation finale. Tout d'abord, avant la mort, l'agonie. L'agonie, elle est parfois entourée de certaines pratiques destinées à la faciliter, ou en tout cas à l'abréger. Puis vient évidemment le décès. Le décès qui est une première séparation, puisque c'est le départ de l'âme. On avertit les parents et l'entourage et les voisins. On fait la toilette du mort, on procède à une veillée funèbre. On arrange la demeure du mort. Parfois, dans certains cas, on va piller et détruire tous les biens du mort. Les Tziganes font ça, par exemple. Et puis, on expose le mort, parfois, dans certains rites funéraires, pour des derniers adieux. Ensuite, la séparation du mort avec son milieu social restreint se fait par le rituel processionnel, le convoi funéraire, qui est toujours en petite société et dans lequel on voit évidemment tout l'entourage proche, la famille, les amis, les voisins, le village, la société proche. Et ce convoi funéraire permet de manifester l'existence du lien antérieur du mort avec son entourage. Vient ensuite le premier stade de marge, qui est organisé selon la religion du défunt. Alors, pour ce qui nous intéresse à nous, évidemment, dans la perspective des cultures historiques de l'Occident, ce sera le christianisme, bien sûr, et donc la messe des morts, l'office, qui permet l'agrégation au monde des morts de la partie immatérielle du mort, qui est l'âme du défunt. Et puis ensuite, la séparation définitive, avec le transfert de sa partie matérielle, le corps, au lieu de la sépulture du mort. Après quoi, il y a un premier rite de réintégration, d'agrégation. Et ce rite, c'est le repas de funérailles. C'est un symbole de solidarité sociale. Boire et manger, c'est un rite d'union dans toutes les sociétés. Ce repas, c'est l'exacte contrepartie du repas de baptême ou du repas de noces. C'est le symbole de l'union des survivants, dans le chagrin éprouvé, et dans la continuité de la vie individuelle et collective. Vient ensuite le dernier stade de la séparation, dans la mesure où le départ de l'un des membres a blessé la communauté, la société, et qu'il faut un certain temps pour rétablir des relations normales, une période de deuil va s'instaurer, dont la durée et l'expression sont variables. Dans certains cas, ces périodes de deuil peuvent être extrêmement longues et courir sur plusieurs années. La famille ou l'entourage proche qui est atteinte par le décès se trouve momentanément extraite de la vie sociale normale, et donc elle est en situation de deuil, et cette situation de deuil se voit, s'observe, parfois par un certain arrangement de la demeure, en tout cas dans l'apparence physique des personnes qui suivent le deuil, notamment par le costume, et l'interdiction de certains actes, justement parfois de faire du bruit, de parler fort, de faire de la musique, de célébrer des réjouissances, etc., autant de rites qu'Émile Durkheim appelle les rites d'abstention. Et quand le deuil est fini ou levé, quand le mort se trouve véritablement éliminé, eh bien parfois on a besoin d'étapes post-liminaires, et ce seront les rites de commémoration qui vont s'étendre donc sur une durée plus ou moins longue. Alors essayons de voir, séquence après séquence, comment dans les cultures occidentales historiques, et notamment les cultures françaises, qui sont celles que j'ai le plus examinées, eh bien comment ces séquences mettent en relation le sonore, comment elles s'inscrivent évidemment dans le tumulte, dans le bruit. Ces séquences, elles sont assez nombreuses, elles commencent à l'agonie, puis le décès, la vérification du décès, qui est une vérification rituelle, l'annonce du décès, la veillée mortuaire, qui se trouve souvent en Occident et en France avant le convoi funéraire lui-même, c'est-à-dire en fait avant l'inhumation, l'office religieux, l'inhumation, le deuil suivant l'inhumation, et éventuellement les commémorations. Depuis le Moyen-Âge et jusqu'au début du XXe siècle, si l'on en croit le travail de Van Gennep, compulsé ici dans son fameux ouvrage qui s'appelle « Le folklore français », le manuel contemporain de folklore français, et qui possède un certain nombre de volumes, c'est un ouvrage extrêmement volumineux. Celui-ci est consacré au cycle de carnaval, de carême et de Pâques, et il est intitulé « Du berceau à la tombe ». C'est dans ce volume-là que Van Gennep énumère tous les rites funéraires encore observables par l'ethnographie au début du XXe siècle en France. On s'aperçoit donc que toutes ces séquences ont un caractère très bruyant, et que la dimension bruyante de ces rituels et de ces séquences est véritablement transhistorique, parce que, en fait, dès le Moyen-Âge, dès les toutes premières sources à notre disposition, on est déjà dans le vacarme, dans le bruit, etc. Et cela est absolument transhistorique, traverse les siècles et se retrouve encore attesté fréquemment au XIXe, au début du XXe siècle. Bon, maintenant, depuis quelques décennies, naturellement, on a changé de référence symbolique. Alors, commençons par l'agonie qui se déroule toujours dans le tumulte. Les écrits notariés médiévaux font état de clameurs de femmes en particulier, qui invoquent la Vierge en criant « Ô Santa Maria ». On a parfois, dans certains écrits notariés médiévaux, des renseignements ethnographiques intéressants. On apprend que les enfants pleurent, que les chiens aboient, que les voisins commentent la scène à haute voix. Au XIVe siècle, on dispose d'un testament du Forez, le Forez qui est une région centrale de la France, dans lequel le témoin raconte que le tumulte était tel qu'en s'installant au chevet de l'agonisant, il n'a rien pu entendre de ce que l'agonisant lui a dit, et donc il ne sera pas l'exécuteur testamentaire de cet agonisant. Cela pour dire qu'on est vraiment dans un tumulte rituel dès l'agonie. Alors, intervient le décès, bien sûr, et là, sur cet aspect du rituel funéraire, les sources historiques font un petit peu défaut. Les sources historiques, en fait, elles interviennent souvent quand il y a des problèmes liés à l'ordre public, à la décence, aux mœurs, etc. Et concernant la vie quotidienne, la vie populaire, on a peu de sources historiques dans la grande ancienneté, enfin de grande ancienneté. Par contre, l'ethnographie révèle effectivement qu'au moment du décès, on est toujours dans le tumulte rituel. Ainsi, en Corse, soudain des cris s'élèvent, le malade vient d'expirer. On se presse. Autrefois, on renversait les chaises et les tables. Donc on voit bien qu'on est dans du bruit rituel intentionnel. Les femmes sont transformées en furie. Elles crient sauvagement, dénouent leurs cheveux, s'égratignent le visage. Le chien hurle. On le chasse brutalement, mais la bête s'en va hurler plus loin dans la campagne. Donc on voit bien que ce bruit est un bruit absolument intentionnel, puisque, nous dit ce texte, autrefois, on renversait les chaises et les tables. Donc on est dans un geste qui est un geste destiné à faire évidemment du tumulte. Une fois le décès intervenu, on va le vérifier. On va le vérifier à travers un rituel assez curieux, daté des XVIIe et XVIIIe siècles en Occident et notamment en France. Mais on a relevé certaines survivances de ce rituel encore au début du XXe siècle. Au XVIIe siècle, on était terrorisé à l'idée de pouvoir enterrer une personne qui ne serait pas complètement décédée. Semble-t-il, il y a eu quelques cas de personnes qui étaient dans une sorte de coma avancé, mais qui n'étaient pas totalement décédées, qui auraient été enterrées finalement vivantes, et évidemment on redoutait terriblement de perpétuer de telles erreurs dramatiques. D'autre part, on sait aussi que les morts, les cadavres, dégagent au moment de la décomposition des corps un certain nombre de bruits divers que l'on entend dans les tombes, que les fossoyeurs entendent, dont ils rapportent les faits, évidemment, de façon totalement terrorisée, en invoquant, évidemment, les puissances surnaturelles, les sorcières, etc. Donc, il y a une angoisse d'enterrer des personnes qui seraient encore vivantes. Et donc, on va instaurer au XVIIe siècle un rite, qui est un rite de vérification du décès. Alors, pour cela, on s'approche de la personne décédée, et on crie à haute voix, à trois reprises, tout près de son visage, son nom, en guettant ses réactions. Ce rituel, on l'appelle le rituel de la conclamatio, qui est un rite qui était encore à l'usage, en usage à l'époque de Tolstoï, nous dit Philippe Ariès, et dont, semble-t-il, le Vatican poursuit toujours ce rite-là, puisque il est de coutume, alors évidemment c'est tout à fait rituel, parce que le pape a les meilleurs médecins du monde, comme tous les chefs d'État, c'est évident, mais il est encore rituel d'interpeller le pape sur son lit de mort, trois fois de suite par son nom de baptême, pour vérifier rituellement son décès. Une variante de ce rituel, variante historique, consistait à attacher au bras du mort des sonnettes qui étaient censées réagir au moindre mouvement insolite. Et là aussi, il y a eu des mauvaises interprétations, puisqu'on sait qu'une personne décédée continue pendant un certain laps de temps, plus ou moins court, à avoir un certain nombre de réflexes nerveux et qu'on a parfois des membres qui sont l'objet de soubresauts. Alors, tant qu'on entendait, évidemment, des sonnettes tintinabulées suite à des soubresauts de cette nature-là, on estimait que la personne n'était pas complètement décédée et on ne procédait pas encore à l'inhumation. Ces traditions anciennes ont survécu jusqu'au début du XXe siècle, comme nous le rapporte Van Genep. Ça, c'est quand même assez extraordinaire de voir à quel point les rituels sont transhistoriques, alors qu'au début du XXe siècle, la médecine est installée partout, y compris dans les endroits ruraux les plus reculés, et c'est naturellement le médecin qui procède cliniquement à la vérification du décès. On est donc dans le rite, ici, bien sûr. Dès que le décès est vérifié, il faut l'annoncer. Il faut l'annoncer d'abord à la famille, bien entendu, mais aussi au voisinage, à la communauté des vivants proches, parce qu'il va falloir les inviter au rite et commencer à organiser les cérémonies funéraires. Et cette annonce du public, naturellement, est toujours bruyante. Il est difficile de faire autrement. On aurait pu faire autrement. On aurait pu imaginer, par exemple, des codes chromatiques, des informations dessinées, etc. Non, ce sera toujours par le bruit. On va crier la mort, on va crier le décès. Au Moyen-Âge, déjà, on connaît ces personnages étonnants que l'on appelle alors les crieurs des morts ou les crieurs des corps. Et si on manque un petit peu d'informations concernant le cri des morts populaires dans les villages, on a par contre des informations intéressantes concernant le cri des grands notables et des grands personnages d'État. Alors, nous avons quand même une illustration qui est très intéressante et qui est une illustration qui date du tout début XVIIe siècle, intitulée « Le cri de la mort », qui nous provient du registre paroissial de Vergonne dans le Maine-et-Loire. Et là, dans cette paroisse, un certain curé nommé Robert de Goyer avait dessiné entre 1616 et 1630 un certain nombre de vignettes concernant les danses macabres et les rituels de la mort. Et l'on voit dans la partie supérieure de cette image, un crieur juché sur un promontoire et criant la mort au son d'un cor, dont le son d'ailleurs est puissant, puisque c'est une façon historique de symboliser graphiquement le son puissant des instruments, qui consiste à faire sortir du pavillon de ce corps un trait noir assez dense. La mort des grands personnages est criée parfois entre 4 et 6 jours d'affilée, ce qui est absolument considérable. Cette période, évidemment, se réduisant pour les personnages plus humbles. Ces crieurs ont des fonctions très larges. À Paris, outre les morts, ils crient le vin. Au XVIIIe siècle, on connaît encore cette corporation des jurés crieurs de corps et de vin, que l'on appelle aussi la corporation des clocheteurs, parce que le cri se fait toujours par l'utilisation de clochettes, de petites cloches. Donc, outre le recours au cri public, c'est principalement l'usage de la cloche et des clochettes qui est utilisé par ces annonceurs des décès. Et on va voir tout au long de cette conférence que la cloche et les clochettes, le métal en général, c'est le matériau qui est dans les cultures historiques de l'Occident et de la France, le plus universellement associé au monde de la mort. En tout cas, la cloche et la clochette jouent un rôle d'annonciateur funèbre. Elle est toujours utilisée par les confréries de pénitents pour les processions de la Semaine Sainte. Et j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, à Perpignan, pour la procession de la Sanche, grande procession de la Semaine Sainte, de photographier donc les confréries de pénitents, dont le prieur, ici, qui a une tenue différente, qui le singularise, hein, puisque sa tenue est rouge alors que tous les pénitents sont noirs, eh bien lui, il ouvre la procession par le tintement d'une cloche, alors que derrière, on le verra tout à l'heure, les pénitents jouent des tambours. Dans son récit de voyage en France, Jérôme Lippomano, on est en 1577, note que lorsqu'un grand notable décède, 6, 8 et quelquefois 12 membres de confréries religieuses, vêtus de longs habits noirs avec un capuchon sur les épaules, parcourent les rues en agitant une clochette et en criant le nom du défunt. Un autre voyageur, un peu plus tard, au XVIIe siècle, rapporte aussi qu'à Blois, aux enterrements, on est invité par un homme qui porte une sonnette et s'en sert pour rassembler les gens et leur annoncer la mort de tel ou tel. Ces conduites rituelles ont connu un prolongement étonnant jusqu'à une période récente. Et à chaque fois, je ferai le parallèle entre les sources historiques et les sources ethnographiques pour montrer l'aspect transhistorique de ces rituels. Voilà ce que nous dit Van Gennep de cette annonce du décès dans les campagnes françaises au début du XXe siècle, c'est-à-dire il y a peut-être à peine 80 ans ou 90 ans, ce qui est quand même très peu. La règle générale qui est encore appliquée de nos jours, Van Gennep écrit son manuel dans les années 1920, c'est que l'invitation aux obsèques est faite par un ou plusieurs des plus proches voisins. Fréquemment, ce soin était dévolu au sacristain ou au sonneur de cloche, par exemple en Quercy ou à Limoges. Dans une région assez étendue qui va de la Bretagne, chaque village avait son clocheteur des morts qui passait dans les rues en agitant une sonnette et en annonçant le décès à haute voix, d'où aussi le nom de crieur des morts ou bannisseur des morts. Une coutume semblable a été signalée dans un grand nombre de localités du Pas-de-Calais, en Thiérache, à Saint-Thierrier et autour de Limoges, à Dole, dans toute la Haute-Saône, dans les Hautes-Alpes et dans le canton de Formerie. Donc on voit qu'encore au début du XXe siècle, cette annonce des décès, ce cri du décès et ce rôle de la cloche et des clocheteurs est attesté par Van Gennep. En complément à cette annonce de proximité et déambulatoire, les clochers des églises vont compléter, bien entendu, cette annonce à tout le voisinage, à toute heure du jour et de la nuit. Des sonneries particulières vont annoncer les décès à un public, une communauté beaucoup plus large, étant donné évidemment le volume sonore de ces carillons. Ces sonneries sont spéciales, elles sont appelées le glas, les sonneries de glas, déjà au Moyen-Âge, dans les cultures occidentales et en France. On les reconnaît immédiatement, on les distingue immédiatement. On est même capable, nous dit Van Gennep au début du XXe siècle, de reconnaître à travers ces sonneries s'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un personnage riche ou d'un personnage pauvre. Et quand on sait dans un petit village, par exemple, qu'une personne est très malade, en fin de vie, et que tout le monde s'attend à son décès, le simple fait d'entendre le glas et de l'identifier informe tout de suite, évidemment, sur l'identité du mort. Dans un passé un peu plus lointain, à partir du XVIe siècle, les confréries méridionales de pénitents, dans un grand espace qui irait, disons, de Toulon à Toulouse à peu près, dans toute cette Occitanie du Sud, eh bien, ces confréries de pénitents enterrent les cadavres au son de sonneries citadines de cloches qui sont sonnées à toute volée. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans le vacarme des cloches, puisque les sonneries à toute volée, c'est la façon la plus puissante de sonner les cloches. Cependant, cette utilisation mortuaire des cloches n'est pas goûtée unanimement. Par exemple, Antoine de Furetière a écrit en 1690 un très fameux dictionnaire dans lequel il parle beaucoup de musique et de sonore, parce que c'était un mélomane averti, et il précise que les cloches, à son époque, sont utilisées dans les enterrements, ce qui corrobore ce que je viens de dire, mais il précise, contrairement à autrefois où elles étaient défendues. On voit bien donc qu'il y a eu une évolution du rite sonore de l'annonce du décès par le biais de ces grandes cloches, de ces grandes sonneries de carillon. En 1708, un chanoine de Paris demande que soit supprimée la sonnerie dans ses funérailles. On s'aperçoit que ces rites ne sont pas unanimement goûtés et parfois on a comme ça quelques témoignages qui sont très intéressants. Van Gennep, toujours lui, a publié plusieurs mimologismes de cinderies funèbres. Le mimologisme, c'est une technique populaire qui consiste à mettre des paroles qui ont du sens sur un son, et en tout cas à donner à ce son une apparence textuelle. En même temps, c'est aussi un principe mnémotechnique tout simple pour se souvenir parfois justement de certaines sonneries, de certains rythmes, etc. Mais les mimologismes ont évidemment une symbolique qui va bien au-delà d'un simple procédé mnémotechnique. Dans certains cas, ils vont attester d'une symbolique érotique, d'un instrument de musique, etc. Alors, il a relevé un certain nombre de mimologismes, dont un au moins est bien intéressant. On est dans l'Oise, et voilà ce que dit ce mimologisme, donc sur le rythme des sonneries de glas. Corps mort va-t'en, denté drap blanc, six pieds devant, Jésus t'attend, dans un grand lit, bordé de buis, d'où sont bannis tous les soucis. Corps mort va-t'en. Donc on voit bien dans ces petites formules, dans ces mimologismes, un rythme, le rythme de la langue, un rythme apparaître qui est le rythme, tout simplement, de la sonnerie de glas, et que toute personne était évidemment immédiatement capable d'identifier quand ces sonneries étaient pratiquées. La fonction mortuaire de la cloche est une grande constante de tous les folklores européens. On va la retrouver tout au long des rituels funéraires, dans toutes les séquences, et notamment dans les veillées funéraires, mais surtout dans le bruit des convois funéraires. Alors, les veillées funéraires sont des moments extrêmement bruyants, c'est là aussi totalement rituel. On a des témoignages historiques, quelques témoignages historiques, et puis beaucoup plus de témoignages par l'ethnographie. Mais l'un des témoignages les plus anciens nous ramène quand même au XIIIe siècle, c'est quand même ancien. Et là, c'est un religieux, Thomas de Quentin-Pré, qui évoque l'usage de jeux rituels qui se déroulent souvent à l'occasion de la veillée des défunts. Donc on fait des jeux qui sont des jeux rituels et des jeux bruyants, bien entendu, des jeux interactifs dans lesquels on chante, on crie, etc. Ces conduites rituelles sont relevées de nombreuses fois par l'ethnographie. Je vais encore une fois de plus citer Van Gennep, je vais souvent le citer dans cette conférence. Van Gennep dit que souvent dans les Vosges, par exemple, on parle haut, assez fort, autour du mort. À Breux, on cause, on rit parfois plus qu'à une noce. On voit bien qu'on est dans de l'inversion, avec ces rituels. Dans le Doubs, il survient parfois des disputes et de véritables batailles dans lesquelles lampes, tables et bouteilles sont lancées par-dessus le corps du pauvre défunt. En Cornouailles, en Bretagne, on chante des cantiques, on boit et on mange. Et l'on voit parfois, nous dit Van Gennep, les sanglots se changer peu à peu en cris de joie et des danses s'organiser non loin du cadavre de l'ami qu'on était venu pleurer. Ce qui est très intéressant et ce qui introduit un thème que je vais développer dans la seconde partie de la conférence, qui est le rapport de la danse et de la mort, notamment à travers le thème des danses macabres. En Limousin, au XVIIIe siècle, nous avons quelques références historiques intéressantes. On poussait l'indécence, nous dit un texte historique, de ce repas de Mourtalias, c'est-à-dire dans le dialecte limousin de cette veillée funèbre, jusqu'à porter le cadavre dans le cabaret, et à chanter ce mauvais couplet moitié français, moitié patois, il est mort ou bien il dort, pour le réveiller, trinquons un verre, mort, 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 t'en iras-tu sans boire. On voit bien qu'on est dans un rituel d'inversion, un rituel bruyant, et que la veillée funéraire prolonge évidemment le bruit général que l'on a observé dès l'agonie. Dans le Cantal, enfin, on nous dit qu'au XIXe siècle, lorsque l'un des conjoints décède, le survivant donne un repas dans la maison où le cadavre est toujours là, il est toujours gisant, il est à côté des convives qui dînent, qui déjeunent. Et là, les convives rient, boivent, chantent et font même des arrangements pour remarier l'hôte qui les invite. Et remariage et mort sont évidemment complètement corrélés. J'aurai l'occasion d'en reparler dans un petit moment avec les rites du charivari. Bien, alors maintenant que la veillée funéraire s'est déroulée dans le tumulte rituel, on peut enfin commencer à procéder au rite d'inhumation, et ce rite d'inhumation va commencer avec le bruit des convois funéraires. Une fois de plus, dans les convois funéraires, c'est l'utilisation des cloches et des clochettes qui rend ces convois bruyants. Et là, les attestations sont autant historiques qu'ethnographiques, on les connaît depuis toute l'époque baroque jusqu'aux périodes contemporaines. En 1647, par exemple, on apprend qu'un convoi funéraire se fait avec la sonnerie. Mais dans l'ethnographie, on nous dit qu'en Bretagne et en Normandie, le cortège est précédé de plusieurs enfants de chœur qui agitent des clochettes. Et dans un certain nombre de paroisses de Normandie ou du Mont-Saint-Michel, Un homme est chargé de faire retentir une crécelle. Bon, ça, c'est intéressant parce que ça introduit ce que je vais dire dans un petit moment sur les instruments des rituels de la semaine sainte et des ténèbres. Et donc, cette crécelle sonne en avant de cette procession funéraire, 300 mètres devant la croix processionnelle. Parfois, dans certains cortèges funéraires, on trouve d'autres instruments que les cloches et les clochettes. On possède ainsi une vignette, qui est, enfin, une enluminure plutôt, qui est une enluminure ancienne et qui nous ramène au XIVe siècle, dans l'un des manuscrits d'un fameux texte de saint Augustin, qui est la Cité de Dieu. Et là, on voit une enluminure qui est censée figurer la pompe funèbre du roi, et ce cortège funéraire royal est ouvert par un couple de sonneurs, cornemuse et chalumeau. Donc là, on est vraiment dans de la musique instrumentale. Ailleurs, souvent, ce sont des chants qui résonnent dans les convois funéraires de façon lugubre et inquiétante. Là, on aura plus de renseignements sur l'ethnographie, les périodes contemporaines, et je prendrai un exemple, non pas chez Van Genep pour une fois, mais chez Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, dans Le Temps des Amours, qui décrit une procession de pénitents noirs, qui agite dans la main gauche sans arrêt une clochette de cuivre, nous rappelle Marcel Pagnol. C'est très ethnographique parfois. Dès lors qu'on a affaire à de l'autobiographie, souvent, on a souvent des textes à haut caractère ethnographique. Et voilà ce que nous dit Marcel Pagnol de ses pénitents. À mesure qu'ils se rapprochaient, Maître Pancras distingua comme une psalmodie et il reconnut bientôt les paroles du Miserere. Chacun portait un flambeau et chantait ces terribles paroles sous la cagoule mortuaire. Alors, ces chants ne sont pas toujours aussi retenus. Il n'est pas rare de retrouver dans les convois funéraires cette apparente désinvolture devant la mort que l'on a déjà observée, par exemple, dans la veillée funèbre. Au XVIIIe siècle, la plupart des convois funéraires sont assurés par les hommes, et ces hommes s'enivrent souvent sur la route, se disputent, ou parfois même, on nous dit, chantent gaiement. Donc là, on est aussi dans un rite d'inversion. Et plus récemment, dans certaines régions d'Auvergne, par exemple, on chantait dans les convois funèbres qui étaient rendus soudainement joyeux, et ces convois funèbres retentissaient de chansons gaies et parfois parodiques, voire même franchement grivoises. Le rituel funéraire se prolonge à l'église et au cimetière, et lorsque le défunt est un notable, historiquement, nous avons de nombreuses attestations de messes d'enterrement qui sont dites hautes, c'est-à-dire en fait célébrées en musique, de façon évidemment bruyante, sonore, le haut étant l'un des qualificatifs historiques du volume sonore puissant. L'autre qualificatif, c'est le bas, bien entendu. Et ce couple haut-bas, pour caractériser le fort volume sonore, ou au contraire le faible volume sonore, est apparu dans le vocabulaire européen du XIIIe siècle, décliné dans pratiquement toutes les langues de l'Europe occidentale. Alors, aujourd'hui, nos messes des morts sont plutôt silencieuses, mais dans une très longue période qui va du Moyen-Âge jusqu'au moins au XVIIIe siècle, au moins à la fin de l'époque baroque, ces messes de Requiem étaient hautes, et même les messes à la mémoire, les messes de commémoration. François Villon, alors là on est à la Renaissance, le fameux poète de la Renaissance, nous dit au détour d'un poème, « Il me suffira d'une messe de Requiem haute chantée ». Bon, la messe de Requiem est nécessairement haute, en tout cas c'est ce qu'on demande. Notre fameux voyageur Jérôme Lippomano, qui voyage en France en 1577, vient dans la ville de Cléry, où se trouve le tombeau de Louis XI et de sa femme. Et il rapporte à cette occasion que le roi avait fondé force messes et offices divins qui devaient être célébrés avec grand accompagnement de musique. Donc là, les messes commémoratives de la mort de Louis XI doivent se faire avec grand accompagnement de musique. Bien entendu, c'est ce qui va générer toute une composition musicale, historique, liée à la mort, les messes de Requiem, les messes des morts, etc. Et on en connaît un très grand nombre qui sont très intéressantes du point de vue d'anthropologie musicale. À titre d'exemple, voici à quoi correspond un service haut de Requiem. Nous sommes tout à fait à la fin du XVIe siècle, en 1599, et c'est un prêtre de la chapelle de Saint-Pierre des Arcis qui demande que son service de Requiem soit fait de la façon suivante. Que mon service soit complet et hautement dit, et que premièrement les vigiles soient chantées à 9 psaumes et 9 leçons selon la note de l'office des trépassés. Deuxièmement, l'aude recommandasse. Troisièmement, 4 grands messes. Une haute messe du Benoît Saint-Esprit, la seconde de Notre-Dame, la troisième des anges, la quatrième des trépassés avec la prose des trépassés. Quatrièmement, en fin du disservice, le liberame domine, le de profundis, puis après le salve regina, les versets et les oraisons accoutumées. On voit vraiment que le service de Requiem est un service extrêmement complet, en même temps qu'il est évidemment très musical, puisqu'il y a quatre grands messes qui sont des messes hautes, c'est-à-dire des messes en musique, bien sûr. Et cela, c'est pour un service relativement ordinaire, le service d'un prêtre, d'une paroisse. Au XVIIe siècle, les messes de Requiem connaissent leur apogée. Et on allait, quand une personne allait décéder, dans son testament, elle pouvait acheter un certain nombre de messes que l'on ferait, évidemment, une fois le décès intervenu. Et dans certains cas, on peut acheter jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de messes, ce qui n'a plus aucun sens, bien sûr. Aucun prêtre va dire plusieurs dizaines de milliers de messes. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que tant que le prêtre sera officiant dans la paroisse, il aura pour fonction de rappeler à chaque messe des morts le nom du mourant. C'est donc une espèce d'achat perpétuel, si on veut, une sorte de concession spirituelle pour les offices. Et des anthropologues, des historiens se sont intéressés à ce qu'ils ont appelé la comptabilité de l'au-delà, pour montrer qu'au XVIe et au XVIIe siècle, on achète des messes par dizaines de milliers. Il y a une espèce d'angoisse devant la mort. On veut être évidemment le mieux protégé qui soit, d'une façon spirituelle, ce qui est assez, finalement assez humain. Mais ce phénomène décroît à partir des années 1760. C'est-à-dire qu'à la fin de l'époque baroque, on tourne la page de ces messes de Requiem systématiques pour des messes de commémoration. On en demande beaucoup moins. Et quand on aura rappelé quelquefois, peut-être, le nom du défunt dans des messes commémoratives, cela sera finalement bien suffisant. Alors, les attestations historiques de rituels bruyants au cimetière ou à l'église sont finalement assez rares. Et une fois de plus, ce sont dans les enquêtes ethnographiques que l'on va trouver l'essentiel de notre corpus. Van Gennep énumère un certain nombre de rituels qui parfois sont, alors, tous très tumultueux et certains assez curieux. Dans une grande zone qui comprend surtout les Côtes d'Armor et le Finistère, et là, la Bretagne possède un folklore de la mort qui est absolument extraordinaire, et que, outre Van Gennep, un folkloriste du XIXe siècle qui s'appelait Anatole Le Bras avait mis en lumière à travers un ouvrage qu'il intitulait « La légende de la mort ». C'est l'ensemble du folklore breton sur la mort qui est absolument extraordinaire et qui dépasse de très loin en volume tout ce qu'on peut pratiquer dans les autres régions françaises. Alors, naturellement, Van Gennep va s'appuyer sur ce corpus ethnographique, mais également sur des témoignages livrés par des correspondants, etc. Et voilà ce qu'il dit pour un certain nombre de rituels qui se situent dans une grande zone qui concerne le département actuel du Finistère et des Côtes d'Armor. Une fois que le service funèbre est terminé, les porteurs se chargent de nouveau du cercueil, et avant de sortir de l'église, ils se heurtent soit à la muraille, soit au dernier pilier de la nef, soit à la porte de l'église. À Saint-Mailleux, ils heurtent d'abord le côté gauche, puis le côté droit de cette porte. À Saint-Igeaud, en arrivant au cimetière qui entoure l'église, les porteurs font toucher au cercueil les deux piliers de l'entrée, puis le portail de l'église et agissent à nouveau de même en sortant. On en rapprochera la coutume au pays de Léon, le pays de Léon qui est également en Bretagne. Sur le trajet suivi par le convoi funèbre, encore appelé le chemin de la mort, les porteurs heurtent la tête du cercueil au piédestal de toutes les croix dressées le long de ce chemin. Et on rapprochera également cette coutume de celle de la région de Quimper, de faire toucher la tête du cercueil à l'autel avant de quitter l'église. Là, on est évidemment dans du bruit rituel, qui d'ailleurs se retrouve dans certains rituels initiatiques. Au moment de l'inhumation, le recueillement va céder la place à des climats bruyants de toute nature. Évidemment, la sonnerie de cloche, une fois de plus. Le travail des fossoyeurs est ponctué par des sonneries de cloche à toute volée. Donc on est vraiment dans un climat extrêmement bruyant, extrêmement sonore. Mais parfois, c'est le rituel très curieux dont je parlais en introduction de cette conférence, qui consiste à jeter des pierres sur le cercueil au moment de l'inhumation, au moment où on descend le cercueil dans la fosse. Et évidemment, ce rituel a pour objet de prolonger le sonore, puisque là, c'est un idiophone de bois, le cercueil, caisse de résonance, qui va faire office d'instrument de musique de bois, enfin, si l'on veut, en tout cas d'objet sonore, jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'au moment où on va le recouvrir de terre. Et là, évidemment, après, ça sera terminé. Et comme je le disais en début de conférence, ce rituel était, semble-t-il, toujours d'actualité, en tout cas il y a quelques années à peine, dans un village du sud de l'Italie, mais peut-être dans d'autres villages d'Europe méridionale, si on voulait bien se donner la peine de procéder à une ethnographie systématique des rites de la mort. Dans certaines régions, quand on a affaire à un notable, quelqu'un d'influent dans la société rurale en particulier, on va tirer des salves d'honneur. Et là, on fait appel à des outils particulièrement bruyants, des mousquets. Et si on a vraiment affaire à un très grand notable, alors parfois un personnage d'État, etc., ce sera le canon. Alors évidemment, le bruit, là aussi, le bruit de l'artillerie ou de la mousqueterie, vient donner, ponctuer de façon finale tous ces rites funéraires que l'on observe dans toutes ces séquences. Donc nous sommes au cimetière, nous sommes autour de la fosse, puisque dans une période historique en Occident, les seuls rites funéraires sont des rites d'inhumation. Il n'y a pratiquement pas de rites d'incinération à ces époques-là. Et là, on va entendre de façon très générale des lamentations et des pleurs ritualisés. L'Église réprouve les pleureuses au Moyen-Âge. Elle les réprouve, mais pas au point quand même de les interdire et de les supprimer, parce que ces femmes, ce sont plutôt des femmes qui sont convoquées pour ce rôle-là dans les rituels funéraires, finalement sont toujours à proximité du prêtre et de l'officiant au moment de l'inhumation. Mais certaines villes du Nord et des Flandres en particulier ont fait des pleureuses des membres du personnel communal. Ce sont véritablement des officiers municipaux. Elles sont employées de façon permanente parce qu'il y a tout au long de l'année, naturellement, un certain nombre de rituels funéraires à respecter. Et ces femmes interviennent également dans les mariages, puisqu'il y a dans le rituel nuptial un moment où l'on cherche à faire regretter à la mariée son état de jeune fille, son état de célibataire. Dans tous les rituels de passage, il y a évidemment la mort d'un état précédent pour l'éveil à un nouvel état. Et cette mort va faire appel ici aux pleureuses qui sont évidemment en général plutôt requises pour les rituels funéraires. Alors, les traces sont très nombreuses de lamentations funèbres ritualisées au Moyen-Âge et sous tout l'Ancien Régime. L'une des traces les plus anciennes est une trace iconographique qui provient du sacramentaire de l'évêque Warmundus d'Ivrea, Ivrea en Italie. C'est une image du XIe siècle. Et là, dans ce sacramentaire, nous avons 10 vignettes du XIe siècle qui nous présentent l'intégralité d'un rituel funéraire. C'est assez extraordinaire. La pleureuse est représentée. Et donc, on a une idée graphique de ce que sont les lamentations funéraires. C'est le plus ancien témoignage européen connu à ce jour. Et d'autre part, c'est un témoignage iconographique, ce qui est extrêmement intéressant parce que c'est très rare. À Montaillou, qui est un village audois, au XIIIe siècle, l'historien Emmanuel Leroy Ladurie rapporte qu'au moment de l'enterrement, on entend de fortes vociférations. Donc oui, les lamentations funéraires sont bien attestées par plusieurs documents médiévaux. Au XVIe siècle, nous avons un texte très intéressant dans la région toulousaine, en tout cas dans le sud-ouest, en Gascogne, où un voyageur gascon assiste dans les Pyrénées-Gascognes, dans la région de Bigorre, à des cérémonies funéraires avec lamentations rituelles. Et ces cérémonies funéraires le surprennent par leur violence, par leur état paroxystique, voire même le choc. Et là, ça montre bien que finalement, ces conduites funéraires peuvent varier quand même d'une région à l'autre. Voilà ce que dit ce texte, qui est l'un des textes les plus précis pour cette période du XVIe siècle. Mais ce qui m'a le plus étonné, étant en ce pays la Bigorre, ont été les chants funèbres qui se font aux obsèques des paysans et des bourgeois, même dans les villes. Vous verrez 4 ou 5 femmes louées à beaux deniers, donc ça montre que ces femmes étaient des professionnels bien rémunérés, pour pleurer le défunt, et tandis que le corps est en l'église, on n'entendrait pas Dieu tonner du bruit que font ces crieuses recommanderesses récitant les gestes et les vertus du défunt avec des cris si hideux qu'il n'y a homme non accoutumé à telle folie qui n'en fût effrayé. Au reste de la Gascogne, il est vrai qu'on crie aussi désespérément qu'en Bigorre. Mais ce sont parentes qui sont si furieuses que souvent on a peine de les garder de se lancer dans les fosses apprêtées pour le mort. Je peux dire avoir vu telle femme laquelle, étant aux funérailles de son mari, se tourmentait de telle sorte que 5 ou 6 de ses voisins ne suffisaient pas à la tenir, et laquelle faisait rage de jargonner les louanges du défunt, suivant la loi du pays. Donc, ce que nous montre ce texte-là, qui est un texte très intéressant, à la fois par le luxe de détails, par la qualité de sa précision, en même temps par la période à laquelle il se réfère, parce qu'on est au XVIe siècle, ce qui est quand même assez ancien, eh bien, c'est évidemment la force, la violence de ces cris, de ces lamentations, Mais le fait aussi que la scène à laquelle il assiste et qui le surprend fait intervenir des pleureuses véritablement professionnelles, alors que dans le reste de la Gascogne, et plus vraisemblablement de son village, en tout cas de sa région, ce sont plutôt les parentes qui font office de pleureuses. Plus tard, l'ethnographie atteste également ces lamentations funèbres. Voilà un texte intéressant pour la Corse. Peu à peu, alors on est au XIXe siècle, peu à peu l'apaisement se fait. Alors l'une des femmes se penche sur le cadavre et se balançant lentement, elle chante d'une voix traînante et criarde, une sorte de liturgie qui dit les qualités du mort. Ça c'est quelque chose d'absolument général. Toutes les lamentations funéraires sont totalement stéréotypées. On voit très bien qu'on est dans le rituel. Il ne s'agit pas de parler du mort d'une façon précise, autobiographique, pas du tout. Il s'agit véritablement de réciter des formules litaniques rituelles. Le rythme est saccadé, rude, aucune larme d'émotion. Le visage est sec, l'image est banale et jaillit vigoureuse comme un roc. D'autres pleureuses se suivent. Une lourde monotonie vous accable. Un malaise vous prend à la gorge, une odeur indéfinissable vous écœure. Bon, des textes qui sont forts, qui sont violents, qui sont extrêmement précis. En Corse, alors la Corse a développé les lamentations funéraires de façon très importante. Ces lamentations ont, semble-t-il, disparu après la guerre de 1914-1918, mais elles ont produit plusieurs genres littéraires très intéressants, qui sont les voceri et les lamenti. Dans le reste de la France, elles étaient encore pratiquées au XIXe siècle dans de très nombreuses régions françaises. Et Van Genep nous dit qu'on poussait de tels gémissements et hurlements, des gémissements stridents et des cris effroyables, qu'on pouvait les entendre parfois à plus de 2 kilomètres. Alors, je souhaiterais m'arrêter quelques instants sur quelques-unes de ces lamentations et faire écouter des lamentations funéraires qui, pour la plupart, ont été recueillies aujourd'hui, enfin aujourd'hui en tout cas dans le courant du XXe siècle, par l'ethnomusicologie dans l'Europe balkanique. C'est en effet l'un des derniers endroits où l'on peut peut-être, à partir des années 1930-1940, enregistrer des lamentations funéraires en situation et les filmer également. Le tout premier exemple musical concerne la Roumanie. Il s'agit de la région de l'Olteni et ces enregistrements, on les doit au grand ethnomusicologue roumain Constantin Brailoi, qui a collecté très systématiquement entre 1933 et 1943. Ici, nous avons 2 femmes qui chantent ensemble dans une diaphonie. Et à partir de là, nous allons écouter 3 lamentations différentes qui proviennent essentiellement de Roumanie, ou en tout cas de pays balkaniques. Et on verra que mes écoutes sont faites de telle façon que plus on va avancer dans les écoutes, et plus ces formes seront musicalisées véritablement. On va, à un certain moment, s'extraire de la pure lamentation, du cri, du sanglot, pour commencer à atteindre une forme véritablement musicalisée. Le deuxième extrait sonore que je voudrais faire écouter maintenant a été enregistré en 1991. Donc là, on est dans un passé très récent. Nous sommes toujours en Roumanie. Nous sommes dans une région qui s'appelle le pays de l'Oache. Et dans cette région, il y a des rites funéraires très intéressants. Cette pièce que nous allons écouter maintenant a été enregistrée par Bernard Lorta-Jacob, Jacques Bouet et une ethnomusicologue roumaine qui s'appelle Speranța Radulescu. Et ce que je voudrais faire écouter, outre la plainte, alors là par contre on entend bien la plainte, le sanglot rituel, je précise qu'on est dans du rituel et pas dans une véritable émotion scénarisée, ce que je voudrais faire écouter dans la deuxième partie de cette pièce, c'est l'introduction et l'usage des trompes. ce qui est extrêmement intéressant, ce qu'on retrouve dans plusieurs musiques funéraires de Roumanie, et ce qui introduit, ce que je vais dire en deuxième partie de la conférence, sur le rôle funéraire de la trompe et du corps dans les rituels funéraires, également dans les représentations symboliques de la mort. Constantin Brailoi avait même enregistré en Roumanie une musique funéraire au moment de l'inhumation qui était exclusivement jouée à la trompe, sans lamentation. Donc pour montrer que ce pays a conservé un usage funéraire de la trompe qui est très intéressant. La troisième pièce que je voudrais faire écouter, on est toujours en Roumanie, et là on est donc dans les enregistrements historiques de Constantin Brailoi dans les années 1930-1940, et nous avons une forme qui est maintenant très musicalisée de la plainte funéraire, puisque une femme, une pleureuse, va chanter avec un joueur de flûte, quelque chose qui devient du coup très mélodisé et très musicalisé. La population des Svanes qui vit dans le nord-ouest de la Géorgie et dont la religion est une religion syncrétique, un petit peu chrétienne, mais aussi avec des rites très chrétiens qui sont très particuliers à cette société. Alors ce qui est intéressant dans ce document, c'est évidemment d'une part les lamentations funèbres qui sont traduites, sous-titrées, donc on va voir que ce sont vraiment des formules ritualisées, une sorte de litanie permanente qui revient. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir tout d'un coup un homme qui se mêle aux femmes dans ses lamentations, ce qui est extrêmement rare. En général, les hommes, publiquement, n'interviennent pas dans les lamentations funèbres. Mais au-delà de la plainte funéraire, ce document met aussi l'accent, naturellement, sur le fait qu'un chœur d'hommes de ce village chante de façon polyphonique et va accompagner tout le rituel, y compris ensuite dans une dimension processionnaire, puisque de la maison du mort, le cortège se rend évidemment au cimetière en procession, et là les hommes chantent une polyphonie qui est très particulière. Et à nouveau, dans le cimetière, auprès de la tombe, il y a des cris, des lamentations ritualisées, exactement du même type peut-être que ce qu'a pu enregistrer Constantin Breillaud ou plus récemment Bernard Horta-Jacob, ou ce dont on nous a parlé dans une perspective historique en France et en Europe.
Oh.
Alors, à l'inverse des rituels sociaux de la mort, l'observation du deuil, qui est donc presque une séquence finale des rites funéraires, est plutôt du domaine du silence. Le problème pour l'historien, eh bien, c'est l'absence générale de sources concernant les deuils populaires. Les seules sources dont nous disposions vraiment concernent les deuils aristocratiques et politiques, des grands personnages de l'État. Et là, le silence intervenait à deux niveaux. Durant les obsèques, qui étaient pourtant musicales, bien sûr, et on connaît toutes les messes de Requiem qui ont été commandées spécialement pour la mort de tel et tel grand personnage, roi, etc. Mais malgré tout, pendant les obsèques, on tempérait le volume sonore des instruments à deux moments des obsèques. Et une fois les obsèques passées, on imposait l'interdiction du bruit et de la fête pendant une période relativement longue. Donc toutes les réjouissances étaient interdites, notamment pendant les deuils royaux. Lors de ces obsèques, donc, qui sont souvent des obsèques grandioses, et pour lesquelles les chroniques, mais aussi parfois l'iconographie nous est restée, comme ici avec cette vignette nous ramenant au tout début du XVIIe siècle, nous sommes en 1608, et c'est donc l'enterrement du duc de Lorraine, Charles III, dans l'église des Cordeliers. Et nous voyons que, sur cette image, une trentaine ou une bonne quarantaine d'instrumentistes vont rythmer tout le rituel de cette messe haute de Requiem, en l'occurrence. Pourtant, à deux moments de la messe, cette musique, ce sonore, va être tempéré. Il s'agit de la procession d'entrée et de la procession de sortie. Et là, les instruments de musique, qui sont habituellement hauts, c'est-à-dire qui sonnent habituellement fort, qui sont par exemple des cornets, des sacs-boutes, des chalumis, des tambours, eh bien, ces instruments vont avoir leur son adouci, tempéré. On va essayer de rendre ce son le plus bas possible, et on va utiliser des techniques de jeu ou des accessoires qui visent à assourdir le son. Alors, pour le tambour, par exemple, on va recouvrir la peau supérieure, qui est la peau dite de batterie, sur laquelle on frappe avec les baguettes, on va la recouvrir par un voile noir. Et ainsi, le son produit par la frappe des baguettes est un son amoindri, c'est un son sourd qui ne résonne pas. Pour les trompettes, on va utiliser des sourdines. La sourdine, c'est un petit accessoire en bois que l'on introduit dans le pavillon de l'instrument, et bien entendu qui atténue sa puissance. La sourdine de la trompette était utilisée pour les cérémonies funèbres royales ou pour celles des grands personnages de l'État. Et voilà ce que nous dit le chevalier de Meux de Montpas, qui a écrit un fameux dictionnaire de musique tout à fait à la fin du XVIIIe siècle, et qui était un disciple de Rousseau. « Pour avoir un son concentré et étouffé, qui puisse dans certaines occasions peindre la suffocation et la douleur, on utilise la sourdine de la trompette. » Donc on voit bien qu'on est dans un contexte essentiellement rituel. Ensuite, la musique savante s'en est servie, naturellement, dans certaines pièces, pour faire des effets de diminution du volume sonore, de décrescendo, etc. Les attestations historiques de ces procédés visant à diminuer le volume sonore des instruments sont extrêmement nombreuses. On en connaît un certain nombre à Toulouse au XVIIIe siècle, ainsi qu'à la cour au XVIIe et XVIIIe siècle. Elles insistent toujours sur le côté lugubre du son produit. Alors le procédé qui consiste à recouvrir le tambour d'un tissu est appelé le tambour voilé. C'est un jeu de tambour que la musique savante a un peu utilisé, mais assez peu finalement, dans certaines pièces évoquant la mort, les requiem ou des opéras tout entiers centrés sur la notion de la mort. Mais cette technique est beaucoup plus populaire qu'en fait qu'elle est savante. Et on la retrouve aujourd'hui, encore aujourd'hui, dans les processions de pénitents de la Semaine Sainte. Et j'ai eu l'occasion de la constater à Perpignan, toujours pour la procession de la Sainte, où on voit ici les pénitents noirs jouant du tambour recouverts d'un voile noir. Et bien sûr, le timbre du tambour est assourdi et donc participe à ce deuil que l'on veut signifier ici, puisque la Semaine Sainte et ses processions sont faites évidemment pour évoquer la passion du Christ. Les obsèques terminées, le deuil s'instaure. Et notamment, pour ce qui est des deuils politiques, les seuls sur lesquels nous ayons véritablement des attestations précises dans l'histoire, eh bien, pendant les deuils des membres de la famille royale ou des grands personnages de l'État, toutes les réjouissances publiques sont interdites, les fêtes, et donc la musique et la danse, et pas seulement dans les villes du royaume, mais également à la cour. Alors, c'est une disposition qui n'est pas toujours respectée. On a heureusement là aussi quelques cas qui montre que on avait parfois du mal à respecter les 5-6 semaines de deuil imposées à la Cour. Mais en règle générale, évidemment, ces dispositions sont respectées. En tout cas, elles doivent l'être. Et voilà, au début du XVIIe siècle, ce que nous dit saint François de Sales, « La musique, tant agréable de soi-même, est importune en un deuil, comme dit le proverbe. » Donc il est clair que le deuil doit se faire de façon silencieuse. Et c'est un rite d'abstention, comme le disait Durkheim, un rite d'abstention sonore qui doit donc interdire toute distraction, la danse et la musique. Alors, l'ethnographie révèle un certain nombre de ces conduites silencieuses pendant le deuil, pas seulement concernant la musique, mais concernant le bruit en général. Il est interdit de faire du bruit dans la chambre ou aux alentours, dans la maison même. Et on va ainsi condamner les sonnettes et les timbres des sonnettes de la maison en les garnissant de paille ou de chiffon. Et cette coutume qui existe à Paris est également observée en Provence. On interdit aux enfants de crier, de chanter ou de siffler, et cette interdiction temporaire s'applique même aux passants, qui doivent éviter de faire tout bruit à proximité de la maison du mort, de rire, de crier, de chanter, de siffler, etc. Parfois même, ce silence forcé est imposé aux animaux de la ferme, qui finalement observent le deuil comme les membres de la famille. Et on va ainsi enlever toutes les clarines, toutes les clochettes, aux vaches, aux chèvres, dans plusieurs départements français, notamment la Savoie, l'Isère, le Haut-Var, l'Ardèche, la Lozère, etc. Voilà donc l'observation générale que l'on peut faire de la relation du sonore et des rituels funéraires. Observation générale qui concerne toutes les séquences des rituels, sauf le deuil, dont on a vu que le deuil est plutôt du domaine du silence. Alors, il en est maintenant, bien sûr, de deux grands rituels que je voudrais examiner rapidement, avant de passer aux imaginaires de la mort et aux représentations symboliques de la mort. Ces deux grands rituels, ce sont les rituels de la Semaine Sainte et le rituel du Charivari, qui, l'un et l'autre, ont un lien assez étroit, évidemment, avec l'univers de la mort. C'est tout à fait évident pour la Semaine Sainte, puisque c'est la semaine des vocations de la Passion, mais c'est aussi, on va le voir, le cas du Charivari. Pendant la Semaine Sainte, notamment le jeudi et le vendredi saint, on voit s'instaurer un terrible vacarme qui débute en principe lors de l'office des ténèbres. Et ce vacarme ne va s'achever que pour le jour de Pâques, à l'office de Pâques. Et là, les conduites sonores sont souvent extrêmement violentes. Par exemple, en Catalogne, on frappe les stalles et le pavé des églises à grands coups de bâton. Dans l'Orléanais, les enfants sont armés de maillets, ils heurtent violemment les bancs pour intimer aux fidèles l'ordre de se lever, de s'asseoir ou de s'agenouiller. Donc il y a un bruit rituel, évidemment, pendant toute la cérémonie, toutes les messes. Dans une autre conférence, intitulée « Anthropologie de l'organologie », je vais revenir de façon détaillée sur les divers objets et instruments de musique utilisés pour ces vacarmes rituels. Mais la principale différence entre les instruments utilisés pour les rituels des ténèbres de la Semaine Sainte et ceux des Charivari, c'est que les instruments des ténèbres sont essentiellement des instruments de bois, idiophones de bois, alors que les instruments de Charivari, qui sont très hétéroclites, comme on le verra, mêlent des idiophones de bois à des idiophones métalliques, parfois aussi des instruments à vent ou des instruments à membrane de type tambour. En tout cas, le rôle du métal, la place du métal dans l'instrumentarium du Charivari est une place prééminente. Les rituels des ténèbres et de la Semaine Sainte font explicitement référence à la Passion et à la mort du Christ. Et de ce point de vue, c'est une mise en scène rituelle de la mort, bien sûr. Et leur côté tumultueux s'explique complètement au regard de tout ce qui vient d'être dit concernant la place du sonore dans les rites de la mort. Je voudrais, à cette occasion, faire écouter ce qui se passe en Aragon au moment de la Semaine Sainte, au moment précisément du Vendredi Saint, à partir de 0h le Vendredi Saint, où tous les membres du village, du quartier, de la communauté se retrouvent sur la grande place centrale et dans les rues avoisinantes, avec des tambours, parfois extrêmement volumineux, pour faire un vacarme terrible, mais malgré tout qui est organisé, c'est-à-dire dans lequel on entend quand même des rythmes. Et là, il y a toute une série de séquences. Toute la journée, ce vacarme va durer pratiquement 24 heures. Avec des séquences différentes. Et voilà le tumulte que l'on fait à 0h pour faire ce que les Espagnols disent rompre l'heure, rond l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on marque le début rituel de ce vacarme qui va durer pratiquement une journée. Clairement que ce vacarme, en tout cas, s'organise rythmiquement, puisque le rythme produit est un rythme ternaire, très nettement perceptible, et en fin de compte, on a vraiment affaire là à ce que John Blacking appelle le son humainement organisé. Ce n'est pas un vacarme comme ça dans l'absolu, non, tout cela, bien sûr, est codifié, ritualisé, correspond à des séquences rythmiques particulières, et chaque moment du rituel, qui va durer toute la journée du Vendredi Saint, correspond à des rythmes particuliers. Ces enregistrements sont des enregistrements récents, ils datent de 2001. Ils ont été réalisés par un ethnomusicologue italien qui s'appelle Goffredo Plastino et ils ont été édités récemment dans un disque qui s'appelle Tambores del Bajo Aragón, dont on voit ici la jaquette. Et ce disque présente un livret extrêmement volumineux qui est extrêmement bien contextualisé, très illustré. Et on voit en particulier des photos historiques ou des photos actuelles qui montrent par exemple ici une procession lors du Vendredi Saint, bien sûr, et cette procession est ouverte de part et d'autre par des rangs de tambours. Donc on imagine évidemment le contexte fortement tumultueux de cette procession dans les rues du village. Et puis ici, sur la place, nous sommes au moment où on va rompre l'heure, précisément. Et là, on voit cette multitude de percussions, dont certaines, comme cette énorme grosse caisse, peuvent être des instruments extrêmement volumineux dont on mesure évidemment tout de suite la puissance sonore. Donc pour la Semaine Sainte, tous les rituels de la Semaine Sainte insistent sur le côté tumultueux, sur les vacarmes qui vont ponctuer toutes les cérémonies rituelles, notamment le jeudi et le vendredi saint. Alors pour le charivari, il faudrait établir les liens que le charivari entretient avec le monde de la mort pour expliquer anthropologiquement ce vacarme. Alors, tout d'abord, on remarque que l'instrumentarium du charivari se réfère de façon constante au métal. Ce n'est pas le métal résonnant des cloches et des carillons d'église, c'est le métal diabolique. L'existence du lien du charivari et de la mort, eh bien, ce sont les acteurs mêmes du charivari qui nous le fournissent. Le charivari, c'est un rituel de remariage. C'est un rituel qui est pratiqué par la société du lieu, souvent d'ailleurs les jeunes garçons, à l'occasion d'un remariage d'un veuf avec un jeune célibataire ou d'une veuve avec un jeune célibataire. En général, quand l'harmonie sociale et communautaire est brisée, on fait toujours un tumulte, un vacarme pour souligner, bien sûr, cette rupture sociale et communautaire. Et donc le vacarme explique d'une certaine manière, illustre le fait que l'harmonie sociale et communautaire est brisée. Mais dans certains cas, ces remariages se font de façon tout à fait normale. On a par exemple deux veufs qui se remarient, qui sont de la même classe d'âge, de la même classe sociale, et apparemment ça ne procure aucune disharmonie sociale. Et pourtant il y a un rituel tumultueux, un vacarme, rituel, un charivari. Alors il faut chercher ailleurs la raison de ce vacarme rituel, et évidemment le charivari possède une dimension magique, mystique et religieuse que les enquêtes ethnologiques dévoilent. Voilà ce que nous dit Nicole Belmont, qui est une ethnologue et qui a travaillé, entre autres, sur les rituels de charivari. S'ils font tout ce tapage, s'ils se livrent à ces débordements, c'est pour apaiser les mânes des morts, car il y a des morts avec lesquels il faut compter. Leur corps est étendu, immobile et impuissant dans la tombe, mais leur âme reste agissante. Que le défunt ou la défunte se trouve froissé et mécontent de ce qu'on vole en seconde noce, les pires calamités fondront sur le nouveau couple. Donc il s'agit bien, évidemment, avec ces bruits rituels, de parler aux morts, de leur demander d'une certaine manière leur autorisation pour ce remariage, de communiquer avec eux. Dans certains cas, ce sont les morts eux-mêmes qui s'expriment à travers ces bruits rituels. Voilà ce que nous disent deux ou trois attestations d'enquête ethnographique sur le charivari. On est dans le Finistère. Le charivari est censé être fait par le mari défunt, jaloux du bonheur du nouveau marié. Donc là, c'est le défunt qui s'exprime par le bruit du charivari. En Saône-et-Loire, on battait charivari pour apaiser les esprits de l'un des décédés. Alors là, c'est le contraire, c'est pour dialoguer avec le conjoint mort et pour lui demander d'une certaine manière son autorisation. En Auvergne, ce tintamarre figurerait l'âme de la première épouse protestant contre le mariage. Voilà à nouveau le mort qui s'exprime. Et on a finalement sans arrêt soit l'expression sonore du mort, soit l'expression d'un dialogue sonore avec le mort, qui est de toute façon la seule forme de dialogue possible. Il reste donc que le charivari est un rituel bruyant parce qu'il a un lien direct avec le monde de la mort. Bon, le charivari a aussi pour fonction, c'est un rituel, hein, d'assurer la puissance sexuelle, la fécondité, la fertilité du nouveau couple. Mais en même temps, les correspondances symboliques entre le tumulte du charivari et le monde de la mort, et en même temps celui de l'au-delà damnés et des revenants, eh bien toutes ces correspondances sont patentes, elles sont exprimées par les charivariseurs eux-mêmes, c'est-à-dire les gens qui font charivari. J'arriverai maintenant à la deuxième partie de cette conférence qui, une fois tous les rituels funéraires examinés et les grands rituels de la Semaine Sainte et des charivari examinés, va s'intéresser à la façon dont on percevait métaphoriquement la mort, les représentations symboliques de la mort, notamment à travers le sonore, bien sûr. Et tout d'abord, je dirais que l'une des premières fonctions du bruit, c'est d'être ce qu'on appelle en ethnologie un intersigne, c'est-à-dire en fait d'annoncer une mort imminente. Le bruit marque une mort qui va se produire de façon imminente, et c'est une façon d'annoncer la mort qui est parfaitement identifiée par les gens qui l'entendent, bien sûr. Parfois, ça peut être aussi des annonces intempestives, étonnantes, inexpliquées, irrationnelles. Ces sons proviennent toujours de l'environnement. L'environnement domestique, les bruits de la maison, des outils, les animaux de la ferme, etc. Ça peut être aussi l'environnement sauvage. Alors, le tonnerre qui est un bruit de la nature qui est systématiquement assimilé à la mort et au diable et à l'enfer. Ça peut être aussi les oiseaux de nuit, dont le son, évidemment, lugubre, évoque le monde de la mort. Mais ça peut être aussi le cas de certains objets sonores et instruments de musique, comme, une fois de plus, les cloches et les clochettes. Ces phénomènes ont une très grande diffusion géographique et aussi une très grande profondeur temporelle. Ils sont présents dans toute l'Europe occidentale depuis au moins le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Ces sons, parfois, ont une origine indéterminée, mais en règle générale, leur provenance est quand même parfaitement identifiée, même si parfois ils restent inexpliqués. Par exemple, en Bretagne, les menuisiers qui fabriquent les cercueils savent par avance si quelqu'un de la région doit mourir dans la journée ou dans la nuit. Ils en sont prévenus par le bruit que font les planches qui s'entrechoquent d'elles-mêmes dans le grenier, alors qu'il n'y a aucune raison, bien entendu, que ces planches bougent d'elles-mêmes et s'entrechoquent. Donc c'est un bruit que l'on identifie, mais c'est un bruit en même temps irrationnel. C'est ce qui fait la nature de l'intersigne. Le bruit des cloches, également, est très souvent intersigne. Alors au-delà de l'éclat sonore, de ces signes avant-coureurs de la mort, on peut même se demander dans quelle mesure ce n'est pas tout simplement l'éclat en général, la notion d'éclat qui est intersigne. Parce que dans certains folklores, comme en Languedoc par exemple, l'éclat lumineux joue ce rôle d'intersigne. Alors il y a ainsi un conte étiologique, un récit des origines sur le tonnerre, l'éclair plus le bruit du tonnerre, qui sont des signes avant-coureurs de la mort. D'une façon générale, les ténèbres constituent un environnement extrêmement bruyant. L'enfer, c'est le siège du tumulte. Et ce tumulte, par nature, est anti-religieux. L'enfer, il est aussi le siège des odeurs fétides, des puanteurs abominables. Et en cela, il prolonge une mythologie que Lévi-Strauss a étudiée dans d'autres espaces, une mythologie d'une très grande diffusion qui associe systématiquement la puanteur au vacarme. Mais l'enfer, c'est également un lieu glacial ou un lieu plutôt brûlant avec les flammes de l'enfer. Enfin, c'est un lieu obscur qui rend aveugle à la longue et qui prive le damné précisément de la vue de Dieu de façon éternelle, ce qui précisément est la peine du damné. Alors en enfer, les cinq sens sont totalement contrariés. Et cette punition, qui est une punition terrible parce qu'elle est éternelle, est appelée en théologie la peine des sens. Elle constitue l'une des explications théologiques les plus crédibles au vacarme de l'enfer. Mais cette notion de la peine des sens revient en force au Moyen-Âge et beaucoup plus tard dans toute la prédication de l'époque baroque, notamment par les jésuites, et en particulier par les jésuites italiens. Alors le Moyen-Âge et l'enfer sont un lieu terrifiant. Au XIIe siècle, par exemple, Raoul Ardan nous expose sa vision de la peine des sens. Les ténèbres pour les yeux, ben les ténèbres, oui, c'est bien ce qui caractérise l'enfer. La faim et la soif pour le goût, la puanteur pour l'odorat, le vacarme pour l'ouïe, le feu et les vers pour le toucher. Les cinq sens sont bien contrariés à l'image de ce qu'a vécu le Christ durant sa passion. Et cela s'est rappelé tout au long du Moyen-Âge et donc au XVIIe siècle. Au Moyen-Âge, on va même, comme Bernardin de Sienne ou Denis le Chartreux, promettre aux oreilles la terreur et aux oreilles aussi des vacarmes et des cris. Donc oui, dans le domaine de l'ouïe, cette peine des sens se traduit par des bruits terrifiants, des vacarmes et des cris. Voilà ce que nous dit un jésuite italien du XVIIIe siècle. Les oreilles crieront pour demander le plaisir de l'harmonie, et pourtant elles n'entendront que les gémissements, les cris stridents, le tumulte, les blasphèmes et les malédictions tout au long des siècles. Les oreilles sont donc, l'ouïe est donc évidemment contrariée. Alors, cette peine des sens qui est infernale va trouver en théologie son antithèse au moment précisément où les sens sont restaurés. Parce que les ascètes, les saints, les gens qui ont vécu de façon dévote et de façon ascétique, et qui ont contrarié leurs sens durant toute leur vie terrestre, qui ont vécu dans la punition des sens, les ermites en particulier, mais aussi les moines qui sont reclus dans des cellules, etc., eh bien, dans la vie, dans l'au-delà, dans la vie future, lorsqu'ils seront assis à la droite de Dieu, ils auront besoin de leur sens restauré, et peut-être même restauré au-delà d'un sens humain. Ils auront besoin vraiment d'une surstimulation sensorielle extraordinaire pour supporter le contact de Dieu et la vue de Dieu même. Alors précisément, voilà ce que dit l'un de ses prédicateurs jésuites, Carlos Olfi. Pour les yeux, combien de changements de scène? Pour l'odorat, combien d'essences printanières? Pour le toucher, quelle caresse de douceur? Pour le palais, quel raffinement de saveur? Pour les oreilles, quelle délicieuse harmonie de son et de chant? Voilà tout ce qu'on promet, évidemment, aux chrétiens qui ont vécu dans l'ascèse, dans la privation des plaisirs, dans la peine d'essence pendant toute leur vie terrestre. Le thème de cette contrariété sensorielle infernale, donc, est intéressant parce que c'est la seule explication théologique rationnelle valable aux différentes modalités environnementales infernales, et en particulier celle du vacarme. Alors, l'enfer, oui, c'est le lieu du vacarme. Le vacarme infernal résonne des gémissements des damnés, des cris de souffrance, des regrets, des pleurs, des grincements de dents. Le tout mêlé au bruit mécanique des machines, des supplices, des roues, des fouets, des chaînes et des grilles, parce que, en fait, la justice de l'enfer, c'est la justice humaine transposée en enfer. Toutes les machineries des peines capitales du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime sont transposées métaphoriquement en enfer, bien sûr. Donc on va retrouver le bruit mécanique de toutes ces machineries de supplice. Cette image sonore est extrêmement ancienne, on la trouve déjà dans l'Énéide de Virgile. Mais les sources médiévales sont nombreuses, sont fécondes, et là, on va trouver ces sources, curieusement, dans des récits de voyages. Certains médiévistes, enfin certains voyageurs médiévaux, ou supposés tels, parce qu'évidemment ce sont des voyages tout à fait métaphoriques, parcourent le monde dans des contrées lointaines et inconnues, et rapportent le fruit de leur pérégrination dans des récits merveilleux. C'est une littérature onirique et très appréciée au Moyen-Âge. Ces récits de voyages nous relatent souvent la visite de l'enfer. Alors Marco Polo nous dit avoir visité le désert du Lop, qui est une métaphore de l'enfer. Il dit qu'on y entend sonner menti instrumenti et proprement tambour. Un autre voyageur, en tout cas supposait-il, parce qu'il semblerait en fait qu'il n'ait jamais voyagé, tous ces voyages sont en fait des pseudo-voyages, c'était Mandeville qui a vécu au XIVe siècle et qui décrit en enfer un tintamarre de tambour, de naquères, les naquères ce sont des timbales guerrières très bruyantes, et des trompettes. Ce bruit infernal, on peut s'en rendre compte également par le biais de nombreuses portes de l'enfer. Parce qu'on est persuadé au Moyen-Âge, on va dire, sous tout l'Ancien Régime en général, et même encore au XIXe siècle, la littérature ethnographique nous le rappelle, qu'à la surface terrestre, il y a un certain nombre de bouches de l'enfer. Et les volcans, par exemple, faisaient office de ces gueules d'enfer et de ces bouches d'enfer. Mais il y en avait un certain nombre un peu partout, et en particulier une fameuse bouche d'enfer qui était située en Irlande, dans un lieu totalement désolé, intitulé le Purgatoire de Saint-Patrick, et qui fut considéré pendant longtemps comme une bouche de l'enfer, de laquelle sortaient des clameurs stridentes. Des cris terribles poussés par différentes bêtes féroces, et des mugissements comme si tous les éléments fussent ébranlés. Voilà donc ce que l'on entendait de ces véritables soupapes de l'enfer. En Bretagne, un ethnographe qui s'appelait Luzel rapporte que le diable précipite les vivants dans un gouffre béant, alors c'est évidemment une porte de l'enfer, hein, d'où sortent des jets de flammes avec des lamentations, des malédictions, des cris épouvantables. Et cela nous est rapporté dans un texte du XIIe siècle par le prélat Honoré d'Autun. Mais on va retrouver naturellement ce thème dans la dramaturgie médiévale et jusqu'à la fin du XVe et même du XVIe siècle, la dramaturgie liturgique des mystères, qui est extrêmement intéressante parce qu'elle scénarise l'au-delà, elle scénarise la passion également. Et donc on voit sur scène maintenant la représentation physique et sonore de l'enfer, du paradis, du purgatoire, etc. Et donc il faut trouver des musiques instrumentales, il faut trouver des procédés bruyants qui vont caractériser scéniquement maintenant chacun de ces espaces. Alors pour l'enfer, comme le bruit caractéristique de l'enfer c'est le bruit du tonnerre, on va s'appliquer à reproduire des bruits, notamment à partir de matériaux métalliques, qui sont censés évoquer ceux du tonnerre. Par exemple des grandes cuves de métal remplies de pierres, remuées par des manivelles. On entrechoquait aussi d'immenses marmites et de chaudrons. On remplissait des bassins d'airain. On agitait en coulisses aussi des grandes plaques de tôle. Et parfois, on avait même recours jusqu'à l'artillerie pour évoquer l'aspect bruyant de l'enfer dans ce drame liturgique médiéval. Dans l'un des mystères dont on connaît le déroulé exact, puisque l'on a conservé le livre de conduite du régisseur, c'est un mystère qui a eu lieu à Mons, donc dans les Flandres, en 1501. On apprend qu'il fallait 17 personnes pour faire le bruit de l'enfer, le bruit des tonnerres, le canon, la grande tempête et la terrible noise de l'enfer. Donc on s'aperçoit, bien entendu, que cette image est tout à fait réelle, ce n'est pas qu'une image mythique, et elle trouve une correspondance dans la scénographie de l'enfer, dans le drame liturgique médiéval. Il y a dans cet instrumentarium de l'enfer et de l'au-delà un instrument qui est assez particulier, qui est la trompette, et notamment la trompette de l'Apocalypse. Ces trompettes de l'Apocalypse sont à la croisée de deux chants symboliques différents, en apparence contradictoires, mais dont l'interprétation doit quand même être nuancée. Le premier chant, c'est celui du chaos, de la destruction et de la mort, parce que l'Apocalypse institue à l'échelle de la Terre le chaos, avant, évidemment, le jugement dernier. Et l'Apocalypse va réveiller les morts. Il faut un instrument qui puisse réveiller les morts. Cet instrument, bien sûr, c'est la trompette. Ce chaos, il est décrit par tous les ecclésiastiques. Alors, il est d'abord décrit par saint Matthieu. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra son éclat, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Donc, un chaos cosmogonique et terrestre total. Mais après, évidemment, le chaos sonore. Voilà ce que nous dit un évêque du XVIIe siècle. Ce ne seront que spectres, fantasmes, hurlements, sifflements effroyables. Ou encore un évêque jésuite italien du XVIIIe siècle. Les poissons et les monstres marins muets jusque-là pousseront des clameurs insolites. Les bêtes féroces affamées sortiront de leur tanière en hurlant. Un aigle criera d'une voix de tonnerre, gare à vous, pêcheurs, etc., etc. Donc on est bien dans le chaos infernal de la mort. Et puis il faut donc réveiller les morts, et ce réveil va se faire au son de trompettes terrifiantes. Les frères des écoles chrétiennes apprennent à leurs élèves un cantique qui se termine par ces vers: une trompette réveillera la mort, et sa tempête fera lever les corps. Alors, dans l'iconographie chrétienne, nous avons quelques images historiques de cet apocalypse, et en particulier cette tenture de l'apocalypse, qui nous provient du château d'Angers, qui date de la fin du XIVe siècle. Et l'on voit bien ici l'ange soufflant le corps, la trompe de l'Apocalypse, et instituant de cette façon le chaos à l'échelle de la terre, déchaînant les éléments, introduisant le feu, etc. Le second champ métaphorique de la trompette a trait à l'autorité et à la justice. La trompette, c'est l'instrument qui annonce les décisions de justice. À cor et à cri, signifie exactement cela. On criait les décisions de justice en sonnant du cor et en jouant les trompettes. Or, de quelle justice s'agit-il ici avec l'Apocalypse qui précède le jugement dernier? Bien sûr, de la justice divine ultime, celle qui va définitivement juger les morts. Et donc, là, on a toujours dans cette fameuse tapisserie d'Angers, un ange qui maintenant, par le jeu de son corps et de sa trompette, évoque la parole de Dieu, le jugement divin, thème que l'on retrouve dans l'ethnographie à travers un fameux conte, qui est le conte de la flûte qui parle ou de la trompe qui parle, et qui nous raconte un berger à l'enfer paître son troupeau, et dont le chien découvre un os qui, porté à la bouche, d'abord du chien, à la gueule du chien, puis à la bouche du berger, révèle une histoire de meurtre fratricide entre deux frères, deux fils du roi. Et puis, bien entendu, ce meurtre est jugé par le roi qui condamne le frère aîné à mort. Et donc là, on a la justice royale qui s'exprime par le biais de cette trompe et de cette trompette. Le diable est un être bruyant, lui aussi, qui est souvent représenté comme un instrumentiste et qui va jouer de la quasi-totalité des instruments que l'on appelait au Moyen-Âge les hauts instruments, c'est-à-dire les instruments au fort volume sonore. On trouve parmi eux tous les instruments à vent, les flûtes, les trompes, les cors, les trompettes, les sacs-boutes, les hautbois, les chalumis, les cornemuses, plus récemment l'accordéon, ainsi que certains instruments à cordes frottées. Mais il faut rajouter, bien entendu, de nombreux instruments à percussion, ce que l'on appelle en organologie des membranophones ou des idiophones. Alors là encore, les clochettes, les sonnailles, les cloches, les grelots, les cymbales, c'est-à-dire en fait beaucoup d'instruments de métal encore, et puis des tambours, des tambourins, des timbales, qui sont des instruments extrêmement bruyants et souvent guerriers. Cependant, quelques instruments se détachent du lot. Il s'agit en l'occurrence des flûtes et des instruments à embouchure de type trompe et trompette, ainsi que des cornemuses. Alors, flûtiste, le diable l'est déjà au Moyen-Âge. Ce thème se poursuit à l'âge baroque, et nous avons, au tout début du XVIIe siècle, un inquisiteur tristement célèbre, qui s'appelait Delancre, et qui a sévi dans le Labour, c'est-à-dire dans le Pays Basque, où il a fait de l'inquisition anti-sorcière. Il a mené des procès de l'inquisition et donc des tribunaux de sorcellerie. Alors, les tribunaux de sorcellerie, j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est une littérature pour l'ethnographie très intéressante, parce que sous la torture, on a dit beaucoup de choses, bien sûr. Et là, Delancre mentionne les démons qui jouent du tambourin. Le tambourin, sous la plume de Delancre, c'est une petite flûte qui se joue à une main, accompagné d'un tambour. Ce n'est pas l'instrument circulaire que l'on connaît et que l'on appelle en organologie un tambour sur cadre. Et ce tambourin, on le joue dans les sabbats de sorcières. Donc les démons jouent du tambourin, c'est-à-dire de la flûte. À l'époque romantique, nous avons de nombreuses attestations de diables flûtistes. Et ces attestations couvrent également sur toute la période ethnographique de la littérature orale contemporaine. En Gascogne, il y a plusieurs contes qui mettent en scène la flûte, alors comme instrument du diable, instrument magique, etc. Et en particulier, un conte dont voici un extrait bien éclairant. Bientôt, après son premier sommeil, l'aube se réveilla. Comment se dit-il? N'ai-je pas entendu une flûte? Il tendit l'oreille. C'était bien une flûte dont on jouait allègrement. Il se dressa aussitôt, et il vit autour du chêne, à la clarté de la lune, une troupe de femmes, toutes la main dans la main, qui dansaient une ronde, les vêtements en désordre, autour d'un joueur de flûte assis au milieu d'un cercle. Ciel et lande retentissaient de ce vacarme fou. Le chevrier écarquillait les yeux, le souffle coupé. Il avait compris qu'il était tombé en plein sabbat. Les femmes étaient des sorcières et le musicien était le diable. D'autre part, la littérature romantique et la littérature orale en général vont colporter le mythe du diable violoniste. Il y a même au XIXe siècle un vaudeville intitulé « Le diable violoneux ». Encore une fois, c'est la littérature orale qui est la plus prolixe. On connaît un conte en basse Alsace qui s'intitule « Le diable violoneux ». Cela dit, dans l'instrumentarium diabolique, ce sont les instruments à embouchure, ce qu'on appelle en organologie les instruments à embouchure, c'est-à-dire en fait les trompettes, les trompes, les cors, qui arrivent en bonne place et qui font de ces instruments d'ailleurs des auxiliaires symboliques de la mort. On trouve quelques instruments à hanches, très peu de hautbois, mais plutôt des cornemuses, qui sont fréquemment citées, y compris dans l'iconographie. Et pour en terminer avec cet inventaire diabolique de l'instrumentarium, signalons le tambour, ou le tambour sur cadre, encore appelé tambourin, dont joue le diable fréquemment dans un certain nombre de documents, y compris les documents de la fin du Moyen-Âge. Alors, j'ai plusieurs fois mentionné le rôle du métal dans l'univers diabolique, tout simplement parce que le diable est un forgeron. Le diable est associé à l'univers sonore du métal, et son destin est scellé par des chaînes. Voilà ce que nous dit l'Apocalypse de saint Jean. « Je vis un ange descendre du ciel, tenant à la main la clé de l'abîme, ainsi qu'une énorme chaîne. Il maîtrisa le dragon, c'est-à-dire l'antique serpent, c'est le diable Satan, et l'enchaîna pour 1000 années. » Donc Satan est enchaîné en enfer pour 1000 ans, ce qui va évidemment générer toutes les théories millénaristes que l'on connaît depuis. Par extension, tout ce qui évoque le métal forgé relève du domaine de l'enfer, jusqu'au forgeron lui-même qui est de nature diabolique. Et la chronologie de ce thème est immense, on la trouve depuis le début de l'histoire chrétienne jusqu'à notre époque contemporaine. Plutarque en parle déjà au 1er et 2e siècle de notre ère. Au 12e siècle, on la trouve explicitement exprimée chez Honoré d'Autun. Et puis au 19e siècle, nous avons des attestations par l'ethnographie. Par exemple, à Toulon, on nous dit qu'il y a un quartier où se trouvent les ateliers de forgerons, ferblantiers, mécaniciens, etc. Et au moment où les cloches recommencent à carillonner, à Pâques, hein, bien sûr, tous tapent, qui sur l'enclume, qui sur la ferraille. D'autres frappent simplement sur le comptoir de leur boutique ou agitent une sonnette. Bref, chacun fait le plus de vacarme possible. Et Van Genep, qui nous signale ce fait, nous signale qu'il s'agit d'un accompagnement ironique au retour des cloches revenues sonner au terme d'une semaine de silence. Et donc c'est une contestation sonore. Des traditions similaires ont été aussi relevées en Suisse, en Catalogne et dans d'autres régions françaises. Enfin, pour terminer avec le diable et le métal, signalons que Claude Seignolle, qui a écrit des choses très intéressantes sur le diable, a relevé dans la toponymie française, sans malheureusement localiser ces attestations, plusieurs noms de lieux-dits qui font explicitement référence au métal et à l'enfer. Ainsi, un lieu-dit s'appelle le chaudron de l'enfer, un autre les marmites du diable, le marteau de Satan, les poêlons du diable, etc. Alors, ce tumulte, évidemment, on le retrouve dans les sabbats de sorcières. Les similitudes sont nombreuses entre le sabbat et l'enfer. D'abord, dans le sabbat, on retrouve Satan. Satan qui préside cette cérémonie. Donc, évidemment, le sabbat des sorcières prolonge immédiatement l'enfer. Mais le sabbat des sorcières introduit également la contrariété systématique des sens. Ce sabbat, c'est un lieu infernal, à la différence ici que cette contrariété est temporaire, le temps de cette réunion nocturne. Parce qu'en général, quand la nuit se termine, le sabbat s'évanouit, cette visite métaphorique dans le monde des esprits des morts disparaît, et on revient à une vie normale, bien sûr. Alors, au sabbat, qui est un lieu nocturne, la vue est contrariée, c'est un lieu de ténèbres. Le toucher est contrarié, car les démons sont brûlants ou glacés. Le goût et l'odorat sont contrariés, avec de nombreuses références scatologiques, le baiser sur l'anus du diable, par exemple. Et l'ouïe est contrariée, parce que le sabbat, c'est le règne du tumulte, une véritable orgie sonore, orgie sexuelle et orgie sonore. Dans les Alpes, encore au XXe siècle, la croyance dans les sabbats de sorcières est encore très vivace, et on dit que les sorcières vont au sabbat tenir charivari. Donc c'est intéressant de voir dans les appellations vernaculaires de tous ces phénomènes des correspondances rituelles et des prolongements. Alors bien entendu, dans le sabbat, il y a un banquet rituel, des messes aussi, hein, une version d'un messe catholique, messe sacrilège, donc une messe noire. Mais ce banquet se ponctue par des danses de sorcières qui sont systématiquement animées par des instruments, qui sont décrits, et même parfois le nom des musiciens est décrit. Et là, c'est un effet naturellement du mode de production de ces sources, puisque je rappelle malheureusement qu'il s'agit de sources issues de procès de sorcellerie et que les personnes étaient torturées par des tribunaux de l'Inquisition, et que sous la torture, on a recueilli un témoignage qui est extrêmement stéréotypé et qui érige une image générique du sabbat, quels que soient les domaines géoculturels, qu'il s'agisse de l'Espagne, de l'Italie, de la France, de zones germaniques, etc. On va même jusqu'à citer le nom de certains instrumentistes, musiciens, que l'on déclare avoir vu jouer au sabbat, ou en tout cas on cite leurs instruments de musique. Par exemple, au début du XVIIe siècle, au Pays Basque, on nous parle d'un joueur de tambourin et de flûte. L'instrument le plus cité dans les sabbats de sorcières, c'est la flûte. Quel type de flûte? Ça, c'est bien difficile de le savoir tant qu'on parle de la flûte, parce qu'il y a des dizaines de sortes de flûtes différentes. Il y a des flûtes à bec, des flûtes traversières, des flûtes de pan, etc. Alors, dans certains cas, on cite le nom de la flûte. Par exemple, dans certains documents de la fin du XVIe et du début du XVIIe, on parle du fifre. Le fifre est une petite flûte traversière suraiguë. Ainsi, on en parle dans un sabbat en Lorraine en 1596, mais on en parle beaucoup à Trèves en 1572, 88, 1589. En 1588, on apprend que les joueurs de fifre sont assis dans les arbres et qu'ils font une musique dissonante. Au Pays Basque et dans le nord de l'Espagne, on nous parle d'une flûte à une main, qui est en fait le tambourin, et qui est l'objet de mentions explicites. Par exemple, en 1621, on nous dit que ces tambourins jouent avec des rebecs. En 1610, à Logroño, on évoque même le nom du chistou. C'est peut-être l'une des occurrences les plus anciennes, historiquement, de ce nom local de flûte à une main du Pays Basque espagnol. Et donc là, le chistou fait référence à un type organologique que nous connaissons très bien encore aujourd'hui au Pays Basque. Delancre rapporte qu'au sabbat, à Andaille, on dansait, je le cite, avec violon, trompette et tambourin, qui rendaient une très grande harmonie. Ce qui signifie ici un très grand bruit, hein. C'est pas du tout une musique harmonieuse au sens de musique plaisante, c'est une musique très puissante. Dans les membranophones, c'est le tambour qui est le plus souvent présent dans les sabbats. Et Delancre le mentionne fréquemment, mais aussi des instruments de bois, des idiophones de bois comme les castagnettes, ou alors des instruments métalliques comme les clochettes. En Aragon, il nous dit que le diable joue des planchettes, qui sont deux petites planches de bois percutées l'une contre l'autre. Plus rarement, le violon est mentionné. On le trouve dans un sabbat en Auvergne au début du XVIIe siècle, également au Pays Basque, où Delancre va jusqu'à évoquer le rebec. Alors, dans l'iconographie du sabbat des sorcières, j'ai trouvé cette eau-forte de Claude Gillot, qui a été reprise ici au Burin par Jean Audran, qui est une image qui date du début du XVIIIe siècle, et qui nous montre un sabbat des sorcières, animé sur la partie droite de l'image par un diable qui a d'ailleurs une forme de bouc, hein, c'est le dieu Pan presque, qui joue du violon, et il y a un détail qui est extrêmement révélateur de cette iconographie dévalorisante du violon ici, dans ce contexte du sabbat, c'est que ce diable est gaucher. Quand on voit l'image, effectivement, il tient le violon de sa main droite et l'archet de la main gauche, ce qui est la marque du jeu d'un gaucher. Or, là, on est sur une opposition symbolique très classique en iconographie historique. Tout ce qui est à gauche est réprouvé, tout ce qui est à droite, assis à la droite de Dieu, etc. Évidemment, c'est le pôle positif de la spatialisation. Les mentions de hautbois sont très rares. J'en ai trouvé qu'une seule au début du XVIIe siècle en Lorraine. Peut-être parce que le hautbois était aussi l'instrument des pouvoirs et qu'on le trouvait introduisant les processions royales, seigneuriales. Il aurait peut-être été un peu inconvenant, évidemment, de mettre le hautbois aux mains des sorcières ou du diable. Par contre, les diables et les sorcières sont des joueurs de cornemuses et les démons jouent des cornemuses. Et on en voit ici deux images, notamment dans ce sabbat des sorcières sur le mont Brocken, qui est une gravure allemande du début du XVIIe siècle, qui reprend ici la plupart des séquences du rituel du sabbat, et l'on voit de très nombreux joueurs de cornemuses, hautbois et trompes dans cette gravure, à différents endroits de l'image. Alors on a aussi des références ici explicites à la scatologie. La scatologie qui est une dimension récurrente du sabbat, comme l'orgie, la licence, etc. Mais une autre image qui nous vient de Trèves, on est en 1620, nous montre un sabbat de sorcières dans lequel on voit dans la partie inférieure droite de l'image la mort s'avançant, couronnée d'ailleurs, hein, c'est un personnage presque royal, la mort est triomphante, ici c'est presque un triomphe de la mort finalement, et elle est précédée par un joueur de cornemuse, ce qui est extrêmement cohérent du point de vue de la symbolique instrumentale. Alors, au-delà des sabbats de sorcières, le bruit, la magie, l'ensorcellement sont toujours du domaine du tumulte sonore. Le problème, c'est que le champ sonore qui entoure la magie a fait l'objet d'assez peu de sources documentaires et n'a pas été beaucoup étudié. Cependant, certains récits y font allusion et on trouve ces récits dans la littérature orale, notamment la littérature orale occitane, où la flûte devient l'instrument magique par excellence. Et cet instrument magique peut faire tout d'un coup surgir un au-delà paradisiaque, un château de cristal qui s'avère être l'au-delà céleste, mais peut aussi faire intervenir des personnages diaboliques. La flûte est un instrument magique qui a une très grande diffusion et une très grande polysémie finalement symbolique. Dans la composition musicale baroque, ce grand musicologue, anthropologue aussi, qui était Manfred Bukowser, a rappelé que, je le cite, apparaissent dans les ritournelles et les accompagnements d'air guerrier ou de scènes magiques de nombreux instruments avant, parmi lesquels on trouve des flûtes. D'autre part, l'ensorcellement est bruyant. Dans les campagnes françaises, il y avait un manuel de sorcellerie populaire qui s'appelait Le Grand et le Petit Albert. Alors ce manuel était assez diffusé dans la ruralité française, mais évidemment c'était un document caché. On en possédait souvent chez soi, en tout cas les personnes accusées ou soupçonnées de sorcellerie en possédaient chez elles, mais évidemment il fallait le cacher parce que c'est un usage qui pouvait être lourd de conséquences, surtout au moment de l'inquisition anti-sorcière. Et voilà ce que nous dit un récit qui a été recueilli en Languedoc, qui s'apparente à un récit authentique, un récit de vie, mais naturellement qui est un récit mythique. Il y avait un homme qui l'avait, ce manuel, Le Grand et le Petit Albert, dans le village, et il le lisait toute la nuit. C'était pas possible de rester près de chez lui tant ça faisait du boucan quand il lisait ça. Tout ça à cause de ce sale livre. Alors là, on voit que c'est le manuel même de magie et d'ensorcellement qui est bruyant, et c'est le fait de lire ce manuel qui déclenche des vacarmes. D'une façon générale, toute l'ethnographie de l'ensorcellement et de la magie met en avant des phénomènes sonores. Je me référerai à celle très fameuse en France de Jeanne Favre-Sada dans les années 1970, à une période où il était encore sans doute possible de faire ce type d'ethnographie, ce qui est peut-être aujourd'hui moins facile à faire. Mais en tout cas, elle a permis de constater de nombreux bruits nocturnes interprétés, comme elle le dit, comme un autre symptôme d'ensorcellement tout à fait irréfutable, et en l'occurrence, pour l'un des faits qu'elle mentionne, qui dura des mois. C'est-à-dire qu'en fait, ces ensorcellements, ces bruits d'ensorcellement, peuvent là aussi être attestés sur la très longue durée. Claude Seignol, en Provence, rapporte que c'est le désensorcellement qui est bruyant. En fait, c'est le rapport à la sorcellerie, tout simplement, qu'il s'agisse d'envoûter, d'ensorceler, ou au contraire d'exorciser. Alors, on arrive à un fameux thème, qui est celui des danses macabres, et qui relie le monde de la mort au monde bruyant, à tout cet instrumentarium dont je viens de parler, et qui introduit de plus le thème de la danse, qui est un thème récurrent par rapport, évidemment, à l'anthropologie de la mort. La danse macabre, c'est un genre iconographique, c'est également un genre littéraire, qui est apparu pour la première fois, semble-t-il, à Paris, en 1424, au cimetière des Innocents de Paris. Cimetière qui, depuis, malheureusement, a été démoli au XVIIe siècle. Par la suite, cette fresque du cimetière des Innocents a été imitée dans de nombreuses autres villes de France et d'Europe. Elle a même été développée dans certains ouvrages, notamment dans un premier ouvrage de Guyot Marchand qui datait de 1486. Mais ce thème a connu immédiatement une fortune immense. Le duc de Bourgogne, en 1449, c'est-à-dire à peine 25 ans après sa première représentation, fait représenter scéniquement la danse macabre dans son hôtel de Bruges. Par ailleurs, on connaît des figurations tardives de ce thème, et là, ça montre que ce thème a une grande permanence dans l'histoire européenne, occidentale, et notamment française. En Savoie, on connaît une représentation qui date du début du XVIIIe. En Allemagne, on connaît des représentations de la danse macabre jusqu'en 1838. Et ce thème a inspiré, à l'époque romantique, de nombreux écrivains, des poètes. Alors, je citerai Rimbaud, Baudelaire, le poète Casalis aussi, qui a écrit un fameux poème sur lequel des compositeurs ont écrit de la musique, mais évidemment des compositeurs parmi lesquels Saint-Saëns, Liszt, Berlioz, Honegger, Ligeti, Moussorgsky, etc. Donc il y a toute une composition romantique qui va s'inspirer du thème de la danse macabre et qui va développer différents aspects de la danse macabre dans des compositions évoquant le sabbat, la mort, la nuit, l'univers nocturne, les ténèbres, etc. Anatole Lebras, folkloriste dont j'ai parlé dans cette conférence, qui a publié sa légende de la mort à propos de l'ethnographie bretonne de la mort, publie dans son œuvre un chant populaire qu'il a recueilli en Bretagne et qui s'appelle « La danse de l'enfer ». Et en fait, qui est une adaptation fidèle du thème de la danse macabre. Donc on voit que la danse macabre est passée dans le domaine de la littérature orale et qu'il a été recueilli dans certains endroits comme en Bretagne. À l'origine du thème des danses macabres, c'est le discours moraliste sur l'inutilité des honneurs, des richesses, des plaisirs terrestres. C'est la doctrine de la vanité du monde, ce que Jean Dolumeau, le grand historien des religions, a appelé le contemptus mundi, le mépris du monde. Ce thème apparaît à la fin des temps antiques, donc c'est un thème très ancien, bien plus ancien que le Moyen-Âge. Il a trouvé dans le milieu monastique d'Égypte et d'Orient des terres d'élection et de prédilection. Et ensuite, il s'est développé dans toute la culture ecclésiastique et dans toute la culture occidentale en général, au Moyen-Âge et jusqu'à l'âge baroque. C'est donc un thème moraliste. Et naturellement, sous des vignettes iconographiques, sont toujours apportés des textes. Il y a toujours des poèmes sous ces images, parce que l'un comme l'autre ont un effet didactique, en tout cas un but didactique évident. Alors, il existe des danses macabres un peu partout. Il en existe une dans les Alpes-Maritimes, pas très loin de Nice, à Bar-sur-Loup, dans l'église de Bar-sur-Loup. C'est une fresque qui date du XVe siècle. C'est une peinture sur bois extrêmement fameuse. Et sous une très belle représentation de cette danse macabre, voilà le texte que l'on peut lire, traduit en français évidemment. « Ô pauvres pécheurs, ayez grande remembrance que vous mourrez bientôt, n'en ayez aucun doute. Et vous faites souvent le bal et menez folle danse, ayez grand peur, car chaque jour s'approche, la fin est votre mort, de mauvaise saveur, si elle vous frappait d'une subite surprise, vous tomberiez tout à fait en grand désespoir. Et vous danseriez en la terrible danse, qui se nomme bien perpétuelle crémation, en faisant des pleurs, des cris et grands blasphèmes. » Alors, cette iconographie historique de la danse macabre va représenter cette danse comme une procession, ou parfois une ronde. C'est le cas ici de Bar-sur-Loup, c'est une ronde, c'est une danse circulaire. Mais souvent, c'est une procession, en tout cas dans ces danses, alterne un mort et un vivant. Ceux qui mènent le jeu, ce sont les morts, curieusement. Ce sont les seuls qui dansent. Les vivants ne dansent pas, ils n'ont aucune envie de se trouver entraînés dans la danse de la mort. Ils font même tout ce qu'il faut, évidemment, pour retarder le plus possible cette échéance. Alors, chaque couple est formé d'une momie nue, un squelette, pourri, asexué, très animé. Alors, parfois c'est un squelette, parfois c'est une momie. En tout cas, très animé, souvent représenté de façon joyeuse, parfois souriante, dansante, parfois pleine de fantaisie, pleine de vie. Et ce mort s'approche du vivant, le saisit par la main, et va entraîner ce vivant dans la danse de la mort. Alors, tout l'art pictural consiste, c'est un art d'opposition bien sûr, un art de contraste, consiste à illustrer le contraste entre cette fameuse danse de la mort, en fait, qui est une danse pleine de vie, et la danse des vivants, qui est une danse pleine de mort. C'est très saisissant de voir, d'un point de vue iconographique, comment les deux s'opposent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette fresque de la danse macabre, sont représentés tous les états sociaux des sociétés anciennes, en particulier des sociétés médiévales et d'anciens régimes, puisque tout le monde est égal devant la mort, que la mort frappera tout le monde, quel que soit son état, sa position sociale, etc. Et on voit à travers la danse macabre une véritable mise en ordre social. Alors on commence toujours par le plus haut personnage placé, pour terminer au plus humble. Le plus humble, c'est souvent le musicien, le ménestrel, avec son instrument qui est posé à ses pieds, et qui est lui-même introduit dans la danse de la mort par un squelette qui lui-même est un musicien. Alors, justement, ces fresques de la danse macabre sont très musicales. La toute première fresque des Innocents ne représentait pas vraiment de musiciens. Mais très vite, on voit apparaître un véritable instrumentarium de la mort à travers ce thème-là. Et dans cet instrumentarium de la mort, on trouve en premier lieu des instruments à embouchure. Alors, aucune surprise avec ça, bien sûr, on retrouve les instruments du diable, les instruments des sabbats de sorcières, etc. C'est la même symbolique qui se décline d'une façon ou d'une autre. En premier lieu, on va trouver la trompe, la trompette, le cor et le cornet. Ça, c'est universel. La mort est tout le temps symbolisée instrumentalement par ce type d'instrument. On va aussi trouver la flûte. À Bar-sur-Loup, par exemple, la mort joue d'une longue flûte à une main avec un petit tambourin, un petit membranophone, un petit tambour. La cornemuse est souvent représentée dans les danses macabres. On la trouve très fréquemment représentée, déjà dans l'édition de Guyot Marchand, l'édition livresque de 1486, et dans de nombreuses représentations en France et en Europe. Je dois dire que ce thème a été imité, représenté dans de très nombreuses églises européennes, en Allemagne, en Italie, etc. Au gré des représentations, on trouve d'autres instruments plus marginaux qui ne méritent pas vraiment qu'on s'y arrête, mais il faut quand même les mentionner. Le luth, la harpe, la vielle à roue, l'orgue portatif, le violon, qui sont plutôt là pour symboliser le plaisir de la musique, le plaisir de l'ouïe, dont évidemment il faudra se débarrasser, puisque la mort entraîne tout dans son sillage. Ce thème des danses macabres est un thème extrêmement important, qui est totalement transhistorique depuis le début du XVe siècle jusqu'à une époque assez contemporaine. En tout cas, l'ethnographie est là pour nous le rappeler. Et à partir de là, de nombreux imaginaires de la mort sont des imaginaires de tumulte et de vacarme. La mort, les morts, sont symboliquement représentés d'un point de vue sonore par le bruit. Alors d'abord, il y a une croyance qui est solidement ancrée, dont j'ai parlé en début de cette conférence, qui est celle que les cadavres émettent des sons. C'est une croyance que l'on trouve déjà présente au XVIIe siècle, à une époque où, effectivement, il est probable qu'on ait enterré certaines personnes pas tout à fait décédées, peut-être dans un état de coma profond. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les corps en décomposition émettent des gaz qui peuvent donner lieu à des petites détonations. Et donc, on entend parfois, effectivement, quand la nuit est là, quand le silence est là dans le cimetière, des bruits inexpliqués à cette époque-là, bien entendu, on n'a pas connaissance de tout cela, et ces bruits sortent des caveaux et effraient évidemment au plus haut point les fossoyeurs. Alors, il y a des croyances dans les manifestations bruyantes post-mortem, et ces croyances sont anciennes, mais elles vont subsister jusqu'à une période récente, jusqu'en Bretagne et en Charente, par exemple. D'une façon générale, c'est tout le traitement musical de la mort qui est bruyant et qui relève du haut sonore. Je me référerai à un fameux tableau de Bruegel l'Ancien, mais on pourrait en citer des quantités de tableaux de ce type. Ce tableau s'intitule « Le triomphe de la mort ». Il a été peint en 1562, il est déposé au musée du Prado, aujourd'hui à Madrid. Et on voit là la mort sur un char, le char de la mort. Et cette mort et tous les squelettes qui l'entourent jouent tout un instrumentarium qui est fait de trompettes, de cloches, de sonnailles, de tambours et également d'une vielle à roue. Les clochettes, les instruments de métal, sont donc universellement cités, dès lors que la mort est citée. Voilà ce que dit un poème de la fin du XVIIe siècle. « Dès que le grelot retentit, cendre et poussière empestent, homme pense à cette fin, toujours pense à cette sonnette. » La mort est acoustiquement, symboliquement, associée à la sonnerie de la cloche. Peut-être cette référence à l'univers tumultueux des morts et de la mort se retrouve-t-elle dans un rite assez curieux que l'on trouve en Europe occidentale et en France, qui est celle de bandes d'enfants ou d'adolescents masqués qui parcourent les rues des villages et qui font d'épouvantables vacarmes à différentes périodes de l'année, notamment pendant la période de la Semaine Sainte et à la Sainte Agathe. Et là, avec des bâtons, ils frappent tout ce qu'ils trouvent, en particulier les fenêtres des maisons, les portes des maisons, en faisant des vacarmes assourdissants. Or, les anthropologues ont travaillé sur ces faits. Je pense notamment à l'anthropologue italien Carlo Ginzburg, ont estimé que ces assemblées de jeunes morts masqués figuraient de façon métaphorique l'armée des morts. Ces gens-là doivent s'annoncer par des instruments de musique qui sont des instruments puissants, en tout cas qui ont un timbre assez puissant et facilement identifiable. Les claquoirs, les crécelles, les cliquettes, qui sont d'ailleurs des instruments que l'on retrouve dans les offices des ténèbres, dans les charivaris, etc. Mais également les personnes qui sont en état de mort clinique imminente, qui sont des véritables morts vivants. Alors je pense aux pestiférés, bien sûr, aux lépreux, aux malades incurables, qui doivent annoncer leur présence aux autres vivants par des sons tout à fait caractéristiques et identifiables et protéger l'environnement humain qui pourrait se trouver à leur contact. Donc il y a une identification de la mort et des morts ou des futurs morts en situation de mort sociale ou de mort clinique par le son. Enfin, l'appréhension du monde de la mort et par les vivants s'opère au contact des revenants. Or, ces âmes en peine ont une proximité relationnelle avec les vivants qu'elles viennent visiter régulièrement, notamment lorsque les rites funéraires n'ont pas été respectés est accompli de façon normale. La façon universelle qu'ont ces âmes en peine de se signaler, c'est le bruit, et souvent un bruit violent. Les attestations de ces bruits sont absolument innombrables. On les trouve au Moyen-Âge, on les connaît encore dans toutes les enquêtes du XXe siècle. Alors, ces bruits proviennent de la maison, des dépendances immédiates de la maison, en particulier les bruits des chaînes, alors toujours le métal, hein, mais le bruit des chaînes, c'est vraiment le bruit des revenants. D'autre part, ces revenants, parfois, ont trait, en tout cas, évoquent l'ancienne activité professionnelle du mort et permettent, comme ça, de se faire identifier. Alors, comme ça, on a des revenants bûcherons qui se font identifier par le bruit de la cognée contre l'arbre, etc. Certains morts, par ailleurs, sont d'éternels revenants. Ce sont, par exemple, les jeunes enfants décédés sans baptême, ou alors les victimes d'une mort violente qui n'ont pas eu le temps d'être baptisées. Parmi eux, les noyés dont on n'a jamais retrouvé les corps et dont les rites funéraires ne seront jamais accomplis normalement. Alors les noyés sont des éternels revenants et on peut les entendre auprès des rivages certaines nuits errer de façon permanente et crier. En Bretagne, par exemple, on dit que ces revenants poussent des cris déchirants. On va même jusqu'à les appeler les criériennes ou les ébraillards. Alors, sans doute, l'une des représentations métaphoriques les plus fantasmatiques de la mort et des morts, et qui a occupé l'imaginaire collectif alors pendant une immense durée, qui est pratiquement au moins une dizaine de siècles, c'est le fameux cortège nocturne des morts, le char des morts, ce qu'on appelle aussi la chasse sauvage. Il s'agit d'une procession céleste, nocturne, morbide, d'un convoi maudit qui s'annonce toujours par des cris, par des aboiements de chiens, par des sons lugubres de trompes et de cors, par des danses cyniques et enfiévrées qui sont celles des morts présents dans ce char. Et ce sonore puissant a pour effet, pour mission, pour fonction de préserver les vivants de sa vision. C'est-à-dire qu'il faut absolument éviter de se trouver au contact de ce char de la mort, sinon on est tout de suite aspiré dans ce char de la mort. Et évidemment, on rentre alors du coup dans la danse de la mort. Alors, les populations rurales sont véritablement terrifiées, se terrent dans les maisons, se barricadent, ferment volets et portes et attendent que ce char des morts traverse les cieux et s'éloigne. Ces mentions sont extrêmement anciennes. La plus ancienne que l'on connaisse remonte au Xe siècle. Et elle était encore attestée, cette croyance, dans les années 1950 et 1960, notamment dans les Alpes. L'ethnographie contemporaine montre que, d'ailleurs, cette croyance était vraiment très présente dans le folklore français vers la fin du XIXe siècle, si l'on prend en compte la diversité dialectale pour la dénommer. Alors, chasse sauvage, ça c'est un terme générique, on dit aussi chasse annequin, ellequin, ennequin, du nom du conducteur mythique de ce char des morts. On dit aussi la chasse galerie, la chasse Arthur, le roi Arthur, et là, on se réfère tout d'un coup au mythe arthurien. Ce corpus historique de la chasse sauvage est absolument immense. Tout un ensemble de textes répartis du Xe au XVIIIe siècle, qui sont des sermons, des écrits de dévotion, des manuels de confesseurs, également des traités de démonologie, des romans en vers, des petits poèmes de style populaire, etc., etc. Et toute cette documentation nous présente une troupe des morts composée d'hommes et de femmes, conduite par des figures mythiques, en général ennequins bien sûr, et qui se manifestent par des apparitions occasionnelles, soit des hommes, qui sont des pèlerins, des voyageurs, parfois des chasseurs. Ces apparitions ont lieu pendant une période tout à fait balisée dans le folklore européen, que les ethnologues appellent le cycle des 12 jours, et qui va de Noël à l'Épiphanie. Donc on est tout à fait au début janvier, fin décembre, début janvier, même si parfois ces apparitions peuvent intervenir à d'autres moments de l'année. Alors, quelques attestations historiques au fil des siècles pour montrer qu'on a vraiment affaire à de la symbolique transhistorique. On est en 1127, mais on est en février, on n'est pas pendant le cycle des 12 jours. Et peu après l'arrivée d'Henri de Poitou dans l'abbaye de Peterborough, on nous dit que bien des gens et des moines entendirent et virent la nuit des chasseurs, 20 et 30 peut-être, noirs, grands et hideux, montés sur des chevaux et des chèvres ou des boucs, sonnant du cor, accompagnés d'une meute de chiens noirs, hideux, avec de grands yeux. Cela a duré pendant tout le carême. Donc époque-là, il y a quand même une certaine durée hein, de ce phénomène, jusqu'à Pâques, où l'on ne sait quand cela finira. Bon, il est quand même fort à parier que le retour des cloches nocturne. Au XIIIe siècle, c'est un prélat, un ecclésiastique, Gervais de Tilbury, qui cite de nombreux récits d'apparitions collectives des morts, et notamment le fait qu'en Grande et en Petite-Bretagne, dit-il, les gardes des forêts racontent qu'à midi, ou au début de la nuit, lorsque la lune est pleine, il est très fréquent de voir et d'entendre une foule de chasseurs, alors toujours ces chasseurs des morts, hein, avec leurs chiens et leurs corps, ils se nomment eux-mêmes la Société ou Familia Arthuri. Au XIVe siècle, c'est le roman de Fauvel qui fait référence à la chasse sauvage à travers la fameuse scène dite du Charivari. À la Renaissance, ce thème est représenté par plusieurs grands graveurs européens comme Hursgraf ou Dürer. Ronsard va même l'évoquer. Il évoque, je le cite, une aboyante chasse alors qu'il se rend un soir vers minuit voir sa maîtresse tout seul outre le Loir. Donc il se dit être lui-même le témoin de cette chasse sauvage. Et de l'encre, l'inquisiteur du début du XVIIe siècle au Pays Basque, précise, je le cite, « qu'en notre âge de récente mémoire, on a vu des apparitions nocturnes de chasseurs qui criaient comme de vrais chasseurs et entendu des bruits de cornets, des chiens, des chevaux, des limiers qui ne sont autre chose que démons, ce que vulgairement on appelle la chasse du roi Arthur. » Alors, 4 siècles plus tard, au XXe siècle, cette vision de la chasse sauvage demeure absolument intacte. On a recueilli, enfin, des ethnologues, je pense en particulier à Charles Joesten dans les Alpes, dans l'Isère, en Savoie, a recueilli de nombreux témoignages de la littérature orale, des récits, qui mettent en évidence cette chasse sauvage. Et là, partout, il y a du vacarme. Il y a des cris, des gémissements, des aboiements, et parfois des musiques diverses. Voilà ce que les témoins ont raconté à Charles Joesten. J'ai extrait évidemment tous les objets, tous les êtres pouvant faire du son. D'ailleurs, cette chasse sauvage, elle est appelée également la synagogue ou les francs-maçons. Des cris d'oiseaux, de corbeaux, de moutons, bruits de chaînes, de sonnailles, cloches, clochettes de chèvres et de moutons, tintamarres de sonnettes et grelots, trompettes, accordéons, un orchestre comme à l'opéra, lit-on dans un des récits, des danses. Donc on voit bien qu'on a affaire à quelque chose qui est extrêmement sonore, extrêmement musical, mélodique, voire même chorégraphié. Au-delà de la chasse sauvage, ce sont les êtres fantastiques, les êtres maléfiques qui sont bruyants. Ces êtres fantastiques, pour la plupart maléfiques, ou en tout cas facétieux, sont toujours l'une des émanations d'un au-delà inquiétant, bien sûr. Leur présence se manifeste par le bruit, avant même de se concrétiser par un comportement qui est taquin ou parfois agressif, voire même violent. En Languedoc, par exemple, l'un de ces esprits s'appelle le drac. Il provoque des bruits inquiétants. On dit, par exemple, que les chiens de la ferme jappent et hurlent, le bétail mugit ou bêle lugubrement dans les étables, les poules piaillent et les portes s'ouvrent avec fracas, etc. Tout un ensemble de bruits que l'on a déjà entendu à l'occasion des revenants et autres manifestations surnaturelles. Dans les Alpes, c'est le follet qui présente les mêmes particularités, ou encore le servant. Et on constate aussi que certains de ces esprits sont dangereux, comme les lutins de Bretagne que l'on appelle les hoppers. Ces lutins existent un peu partout. George Sand l'évoque à travers ceux du Berry, qui sont les lupeux, alors là, dans cet endroit-là, qui ont une voix douce et claire, un cri sympathique, ce qui est éminemment dangereux parce que c'est fait évidemment pour attirer les voyageurs, mais les victimes qui s'égareraient et qui seraient happées par ces esprits maléfiques sont précipitées dans les étangs de la Brenne et se trouvent noyées. On va même voir un personnage qui était un préfet, Jacques Cambry, qui a participé à la statistique départementale, qui a rédigé un récit de voyage dans le Finistère, et qui déclare avoir vu ces esprits danser dans la lande bretonne. Il les appelle des courils, et il dit que ces esprits quittent leur palais et vont danser sous la lande. Donc c'est assez étonnant de voir ce personnage, représentant de l'administration préfectorale du début du XIXe siècle, accrédité sous forme d'un témoignage direct, une thèse complètement mythique, qui est celle de la mise en scène de ces esprits maléfiques dans un environnement bruyant. En Champagne, on nous dit que ces esprits maléfiques dansent au son du violon. Ce qui est intéressant parce que c'est l'une des rares attestations instrumentales qui relie la musique instrumentale à ces esprits maléfiques. En général, ces esprits maléfiques se manifestent par le bruit, par le cri, par un comportement excessif, corporel, gestuel, qui s'inscrit dans le haut corporel comme dans le haut sonore. Pourtant, il y a une exception de taille sur laquelle je voudrais m'arrêter quelques instants, qui est l'entrée en scène dans ces récits du loup. Dans de nombreux récits mythiques, en effet, le loup rentre en scène à travers un instrumentarium extrêmement précis et dans un contexte lui aussi extrêmement précis. Alors, le récit est classique. En général, il concerne un musicien. Ça nous est toujours rapporté, ça a été souvent rapporté par l'ethnographie et par l'ethnomusicologie, et ça a souvent été rapporté comme un récit véridique, mais évidemment que le témoin n'avait pas vécu directement, mais qui se rapportait à quelqu'un du lieu, et donc on a entendu parler, etc., ce qui est le propre de la mise en scène, évidemment, des récits mythiques et des légendes. Alors là, le tableau est classique. Un ménétrier, un musicien populaire, revient d'une fête lointaine qu'il est allé animer. Il rentre après le bal nocturne et il traverse des régions un peu désolées, désertiques, la nuit, tout seul. Souvent d'ailleurs un endroit désolé ou une forêt. Et là, soudain, à la lueur de la lune, il entend le hurlement d'un loup proche, qui parfois d'ailleurs peut être le hurlement d'une meute. Alors le face-à-face est inévitable. Il va y avoir combat, et dans ce combat, évidemment, le musicien n'a aucune chance, d'autant que personne ne peut venir le secourir. Et là, dans tous les cas, un miracle se produit. Le miracle, c'est que soit le musicien se souvient tout d'un coup d'avoir emporté avec lui un objet, comme un gâteau ou du pain, par exemple, ou alors d'avoir sous son bras l'instrument de musique, et s'en souvenant, il va utiliser cet objet, ou alors le recours à cet objet est tout à fait fortuit. Mais quoi qu'il arrive, cet objet est mis en scène, alors parfois un gâteau, très souvent un instrument de musique de ce ménétrier, et là, avec cet objet, il parvient à apprivoiser l'animal, qui finalement va renoncer à toute tentative d'agression et finit, au bout d'un certain laps de temps, par rebrousser chemin. Naturellement, c'est un récit mythique qui correspond à un conte européen inventorié sous l'intitulé générique du musicien et du piège à loup. Je rappelle que deux ethnologues européens avaient proposé une typologie européenne des contes, et ce conte-là possède l'indicatif générique A168, donc c'est un type de conte parfaitement identifié, qui connaît des déclinaisons, des variantes locales, comme tous les contes, toutes les légendes, tous les mythes, enfin dans lequel revient toujours ce piège du loup, dont il faut évidemment se sortir. Alors, cette relation avec le monde des morts, elle est évidente, parce que ces loups ici sont mythiques. Bien entendu, ce n'est pas des vrais loups, ce sont des démons, des sorciers, des personnages d'un autre monde, de l'inframonde, du surnaturel, des sphères surnaturelles, et des revenants aussi. Et on va se prémunir de ces loups comme on se prémunit des revenants. À ce sujet-là, Anatole Lebras, au terme d'un de ses récits, fait la remarque suivante. Enfin, ce n'est pas lui qui fait la remarque, c'est la personne qui lui a rapporté le conte. Si vous voulez que les revenants ne puissent rien contre vous, ne cheminez jamais de nuit sans avoir avec vous l'un quelconque de vos instruments de travail. Les instruments de travail sont sacrés, aucune espèce de maléfice ne peut prévaloir contre eux. Or là, dans le cas du musicien, naturellement son instrument de travail c'est l'instrument de musique, mais on connaît aussi certains contes qui mettent en scène des personnages qui ne sont pas des musiciens. Par exemple, en Pays d'Oc, on a un de ces contes-là, dans lequel c'est un tailleur qui se retrouve la nuit dans une forêt entourée de loups, eh bien, il va apprivoiser les loups et finalement, ensuite, les mettre en déroute par le seul son de ses ciseaux entrechoqués, donc ses outils de travail. Donc on a vraiment l'image là que ces loups sont en fait des loups mythiques et des revenants. La relation des loups à l'au-delà d'année s'élargit par le fait que ces bêtes sauvages, les loups, se retrouvent souvent au cœur des sabbats. Parce que le loup peut, et d'ailleurs est souvent, un sorcier métamorphosé par le diable. Par exemple, dans un des sabbats de sorcières d'Ille-et-Vilaine, donc en Bretagne, on nous dit que le diable, les sorciers et les loups sont camarades. Il y a une sorte de complicité mythique entre ces trois personnages. Alors, de ce récit type du meneur de loups, je retiendrai deux choses. C'est que d'une part, la relation au loup est sonore, et en général se fait d'ailleurs avec un instrument assez puissant, clarinette, un hautbois, etc. D'autre part, elle s'établit sur la base d'un échange. Le musicien propose au loup un son, une musique d'un fort volume sonore. En contrepartie, il aura la vie sauve. Il y a donc ce que les ethnologues ont appelé le don et le contre-don, le don au loup et le contre-don qui est l'abandon de toute volonté d'agression. Autrement dit, cet échange se fait sur la base d'un accord tacite entre ces deux êtres, qui est en fait une relation de connivence. Le musicien ne met pas le loup en déroute, ne lui fait pas peur, non, il établit une sorte de complicité forte avec lui, une connivence, qui fait que le loup n'a plus aucune raison, évidemment, d'agresser le musicien. Alors, ces deux êtres sont très proches, finalement. Le loup est terrifiant et sauvage, bien sûr. Dans l'imaginaire européen, français, même encore aujourd'hui, on sait bien que le loup terrifie. Mais le musicien appartient au monde de la nuit. Il vit, il travaille en marge de son groupe social, et lui aussi développe tout un imaginaire qui est un imaginaire parfois inquiétant. Et cette connivence entre le musicien et le loup est soulignée par certains récits. Par exemple, à Brandebourg, cette version mythique fait apparaître un loup qui, je cite, « de sa voix perçante, accompagna la cornemuse en apportant une certaine emphase au concert ». Et là, on voit que le loup se joint à la musique du ménétrier par son hurlement. En fait, il ne cherche pas à mettre le loup en déroute, il cherche à l'apprivoiser, au contraire, et à faire en sorte que le loup l'accompagne, le suive partout dans tous ses déplacements. Le musicien devient un meneur de loup, et ce thème du meneur de loup a été largement colporté par la littérature orale, également l'imagerie, l'iconographie. Le fils de Georges Sand, qui s'appelait Maurice Sand, a réalisé un certain nombre de lithographies, dont plusieurs mettent en scène dans le Berry ce meneur de loup mythique qui conduit cette espèce de terrifiant cortège au son de sa grande cornemuse. Les meneurs de loups, bien souvent, se confondent avec les personnages mythiques qu'ils sont censés apprivoiser. Par exemple, les signaux sonores du loup et du ménétrier sont totalement interchangeables. Voilà ce que nous dit Claude Seignolle. Remarquez bien que le loup pousse une plainte humaine, tandis que l'homme pousse un hurlement de loup. Alors, une telle analyse de ce conte prend tout son sens dès lors que ces loups mythiques deviennent de plus des loups déclarés garous. Car ici, ce personnage trouble et effrayant est totalement rattaché au monde de la mort, c'est évident, et au monde de l'au-delà damné. La lycanthropie, qui est le phénomène des loups-garous, a totalement à voir avec l'univers du chamanisme. En fait, c'est un voyage temporaire dans le monde des morts et dans le monde de la mort, comme l'est le chamanisme. Le loup-garou, en effet, n'apparaît que temporairement sous cette forme animale. Le reste du temps, c'est un être vivant, comme vous et moi. Personne ne peut soupçonner sa double nature. Quand il est loup, il commet les plus terribles méfaits, il tue, il viole, il dévore. Quand il est humain, il reprend le cours normal de sa vie, souvent amnésique, ce qui montre bien, d'ailleurs, l'aspect chamanique, l'aspect trans de ces pratiques de lycanthropie. Le loup-garou. Eh bien, en le blessant lorsqu'il est loup, pour que la blessure subsiste une fois son apparence humaine recouvrée. Et quel est le membre que l'on blesse? Eh bien, un membre gauche. En général, le membre supérieur, un bras, mais très souvent, le pied. On va blesser son pied, sa jambe gauche, afin qu'une fois l'apparence humaine recouvrée, il reste boiteux, boiteux du pied gauche, ce qui est une grande marque mythique, les boiteux du monde des morts. Saturne est un boiteux, Vulcain était un boiteux, etc. Et tous les boiteux sont des mondes des morts et sont habitués du monde des morts, de l'au-delà damné, des personnages diaboliques et sorciers. On a même représenté le diable au XVIe siècle comme un boiteux dans certaines gravures, notamment Dürer l'a représenté comme ça, ainsi que Hursgraf. Alors, si le loup est un animal dont le cri est terrifiant et puissant et haut, le loup-garou, lui, c'est encore pire. Il est haut partout, par son cri bien sûr, mais par son comportement en général. Ces croyances ont été maintenues très tardivement dans le domaine français, notamment dans les Alpes. Les Alpes, alors là, où on croit beaucoup aux sorcières, aux revenants, aux sabbats, aux loups-garous, etc. À Orcier, en 1862, on nous dit qu'une quinzaine de loups-garous font la sarabande. La sarabande, c'était une danse bruyante. Donc l'idée de la danse, encore, de la mort, mais une danse bruyante, peut-être animée par le son d'instruments de musique, et ce sont les loups-garous qui font ça. À la chapelle, en Valgaudemar, toujours dans les Alpes, la peau d'un loup-garou, en grillant, faisait un bruit formidable, comme les plus grands tonnerres. Le tonnerre, ça nous ramène encore une fois à l'enfer, au diable, etc. À Lérieux, autre village, les loups-garous étaient des personnes qui s'habillaient en bêtes, en fantômes. Ils mettaient des grelots, ils dansaient, ils sautaient, ils faisaient peur. Alors, l'inscription du thème des loups-garous dans l'univers de la mort ne fait aucun doute, tout comme le récit type du ménétrier meneur de loups. En conclusion de cette conférence historique, donc, d'anthropologie historique sur les rituels sociaux de la mort, ou encore sur les imaginaires et les représentations symboliques de la mort, nous avons mis en évidence, bien sûr, de façon univoque et totale, le domaine du vacarme rituel. Le vacarme rituel est présent tout le temps. On l'a vu à toutes les étapes, dans toutes les séquences des rituels funéraires, sauf le deuil. Il est présent tout le temps dans toutes les représentations mythiques, symboliques, fantasmagoriques de la mort. Il n'y a pas de mort sans bruit, il n'y a pas de revenant sans bruit, il n'y a pas de diable, de sabbat de sorcière, d'être mythique, maléfique, etc., sans bruit. Alors à partir de là, il y a deux solutions à partir de ce constat, de ce paradigme sonore. Soit nous livrer par exemple à des études comparatives avec d'autres cultures dans le monde pour essayer d'établir des universaux, nous pourrions très bien le faire, en particulier pour ce qui est des rituels funéraires, ou alors faire ce que j'ai préféré faire à travers mes recherches, c'est-à-dire en fait montrer en quoi cette caractérisation sonore s'inscrit dans une puissante et récurrente dévalorisation du bruit, du fort volume sonore dans l'histoire de la musique occidentale. À l'époque baroque, en effet, le bruit, en plus de caractériser l'enfer, les damnés, la mort, etc., ou les rituels funéraires, eh bien le bruit devient la marque d'un jugement esthétique. Il est le propre d'une musique mal exécutée. Il est une faute de goût caractéristique. Il est le fait de musiciens médiocres et, évidemment, de musiciens populaires. Cette notion de bruit se trouve au cœur des oppositions religieuses et profanes, mais du coup aussi savants et populaires. Et cette anthropologie musicale historique des rituels de la mort, que j'ai proposée à travers cette recherche, à travers cette conférence, permet d'étayer largement ce constat. Je vous remercie.